Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Point & Think. Pour ce troisième épisode du Point de Vue, comme vous avez pu le voir en cliquant sur le podcast, on va s'attaquer à Immortality, le dernier jeu de Sam Barlow et de son studio Half Mermaid. Pour une fois, l'équipe s'agrandit. On accueille avec nous Bénédicte, qui fait partie déjà de la rédaction, mais que vous avez pu notamment découvrir avec son premier dossier sur la révolution dans les jeux vidéo. Bénédicte, comment tu vas ?
Ça va et toi ?
Ça va très bien. Ravi de t'avoir parmi nous pour ce podcast.
Ravi aussi d'être là.
Génial, et je suis aussi accompagné du coup de mes trois fidèles camarades. Brian, comment vas-tu ce soir ?
Comme d'habitude, je vais très bien, et toi ?
Génial, génial. Stéphane, comment vas-tu ?
Nickel, super content d'être là pour enregistrer avec vous tous.
Parfait.
Ça s'entend.
Et Axel, la forme ?
Ah, comme d'hab. Et puis en plus, on va parler de cinéma en plus là, donc super content.
Ah, on va parler effectivement d'un jeu qui est entre cinéma, jeux vidéo, donc on a pas mal de petites choses à raconter. Avant de passer sur le générique, on tenait déjà à vous remercier pour votre suivi, pour votre soutien, parce qu'on voit que les écoutes augmentent sur les podcasts, les vues augmentent aussi sur le site. On voit qu'il y a de plus en plus d'interactions, on voit que ce qu'on fait en tout cas, ça vous intéresse. Donc vraiment, merci beaucoup. On voit de plus en plus de petites étoiles sur Spotify, sur Apple. On voit de plus en plus d'abonnés, de likes sur YouTube. Donc c'est bête, mais c'est vraiment important pour nous. Ça aide au référencement. Ça permet de faire connaître ce qu'on fait à des gens qui ne sont pas forcément dans notre sphère. Donc merci à vous tous. Et avant du coup de commencer le plan et le podcast, on vous laisse sur ce générique composé par Axel Vapa, encore une fois, qui a composé vraiment ce morceau uniquement pour notre podcast en s'inspirant un petit peu des musiques du jeu. Et on se retrouve tout de suite après pour le début du Point de Vue. Pour ce podcast, nous allons donc faire plusieurs parties. On va d'abord commencer par un petit tour de table pour voir un petit peu le rapport de tout le monde à ce jeu, ce qu'on en a pensé, un petit peu comment on l'a découvert et pourquoi on a voulu en parler aussi. On va ensuite faire un petit contexte, une petite histoire du jeu rapidement, moins pour que ceux qui ont déjà fait le jeu, mais il y a un petit moment, s'en remémorent un petit peu. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas envie de le faire, et un petit peu de contexte. Je précise tout de suite, on va spoiler, on est obligé, en parlant d'Immortality, si on veut commencer à l'analyser, faire quelque chose d'intéressant, donc ça reste un jeu de mystère, donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Faites-le, si le jeu vous intéresse, avant de nous écouter, le podcast sera là, il sera toujours au chaud, donc revenez plus tard. Et après un petit peu cette introduction, on va entamer du coup les quatre grands axes qu'on veut développer. La meilleure, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du cinéma, les inspirations autour des trois films, d'Ambrosio, de Minsky, de Two of Everything, un petit peu tout ça, un petit peu vraiment la passion aussi de Sam Barlow, où c'est quelque chose qu'il a infusé dans tout le jeu et dont on voulait parler. Le deuxième point, qui est sûrement un des plus importants, c'est la narration dans le jeu. C'est vraiment tout ce qui tourne autour du gameplay, du jeu, autour du level design, comment tout ça a été mis en place dans le jeu. On va ensuite aller sur la partie sur le féminisme un petit peu dans le jeu, et sur la place des femmes dans le milieu de l'entertainment, parce que c'est pas vraiment que dans le cinéma que c'est abordé. Et si le jeu est féministe ou non, s'il y arrive ou non, et en tout cas, qu'est-ce qui met en place pour aller vers ça. Et enfin, on va finir par un des autres grands thèmes du jeu, vraiment tout ce qui est autour de l'art et le pouvoir de la création, qui est un petit peu un des derniers messages du jeu. Donc, pour commencer le petit tour de table, on va commencer par Axel. Quel est ton rapport un petit peu avec le jeu ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Comment tu te sens vis-à-vis d'Immortality ?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. J'ai une grande histoire d'amour avec Sam Barlow, parce que Silent Hill Origins, c'est Silent Hill Shattered Memories. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ces deux jeux-là, mais moi, je les adore. C'est vrai qu'après Telling Lies, qui m'avait un peu déçu, que j'ai trouvé beaucoup plus brouillon que Her Story. Revenir sur Immortality avec le cinéma, enfin avec l'histoire du cinéma, et surtout qu'il puisse mettre en avant son amour du cinéma, parce que ce mec-là, c'est vraiment un amour absolu du cinéma. Et il a totalement réussi à m'avoir, en fait, avec ses inspirations et tout ça. C'est vraiment un jeu qui m'a parlé directement.
Mais je pense qu'on est deux autour de la table qui avons peut-être le plus aimé le jeu. Donc ça va être intéressant aussi de confronter nos points de vue, même si c'est pas forcément que le but. Bénédicte, c'est quoi ton rapport avec Immortality ?
Alors, c'est un rapport un peu ambigu, parce que j'avais adoré Telling Lies, qui était le premier jeu de lui que j'avais fait. Et j'ai pas encore joué à Her Story, c'est prévu, mais c'est pas encore le temps. Et Immortality, je n'ai pas accroché. Voilà, je serai un peu la voix dissonante ce soir, même si je reconnais qu'il y a énormément de choses très intéressantes, que ce soit en termes de narration, en termes de symbolique, etc. C'est un jeu sur lequel j'ai passé du temps rapport à ces questionnements-là, mais je n'ai pas spécialement pris plaisir à y jouer.
Je pense qu'il y en a, on a deux autres autour de la table qui sont plus ou moins du même avis. J'ai l'impression que Stéphane, tu tombes un petit peu là-dedans aussi. En tout cas, bah, comme on dit, on a des choses à raconter, mais... qu'est-ce que t'en as retenu un petit peu, toi, d'Immortality ?
Écoute, moi, je me lançais dans, on va dire, dans l'aventure Immortality curieux, parce que j'ai jamais joué à un jeu de Sam Barlow. Et j'avoue que j'ai été très désarçonné au début, parce qu'au final, c'est très particulier, même en termes de gameplay, on va dire, si on peut parler de gameplay. Et au final, bon, j'ai quand même accroché au jeu, dans le sens où, une fois que j'étais dedans, j'arrivais à faire des longues sessions, parce que j'avais ce plaisir, on va dire, d'explorer ces trois films. Mais c'est vrai que aujourd'hui, après coup, j'en tire pas grand-chose dans le sens où ça m'a pas beaucoup plu. Alors, effectivement, il y a des thématiques intéressantes abordées, etc. Mais le tout me laissera pas un souvenir impérissable, on va dire. Et je serais curieux de tester justement ces anciens jeux, parce que justement, on en discutait en off. Vous m'aviez parlé de son jeu où on suivait une femme qui était interrogée.
Ouais, Our Story.
C'est lequel des jeux ? Voilà,
Our Story. Ouais.
Et du coup, j'ai une certaine curiosité parce que j'en avais vu des vidéos à l'époque et là, pour le coup, ça me donnait envie. Donc, ouais, je serais très curieux de tester ça. Mais c'est vrai qu'au final, ouais, je suis très mitigé sur ce jeu. C'est la première fois dans le point de vue que je suis mitigé sur un jeu. Fallait que ça arrive un jour. Bon, bah voilà.
Our Story, bon, on va revenir un petit peu dessus sur l'introduction, mais c'est ça fait un peu version pilote de Immortality, dans un sens. Brian, c'est quoi le rapport un petit peu que t'entretiens toi avec Immortality ?
Moi je rejoins un peu Bénédicte. Alors déjà moi j'ai jamais fait de jeu de Sam Barlow. Grosso modo je suis à peu près sûr que je n'ai jamais fait de FMV non plus. Ma seule expérience, si on peut considérer ça comme un FMV, c'est Bandersnatch sur Netflix. Je peux pas dire que j'ai aimé Immortality. Je peux pas dire que j'ai pas aimé non plus parce que... Je l'ai terminé sans me forcer. Maintenant, c'est un jeu très particulier. En fait, c'est un jeu qui, quand j'étais dedans, il y avait un effet tunnel, un peu comme quand tu te perds sur YouTube ou que tu scroll down sur Twitter, t'es entraîné dans tout ce que tu découvres et tu vas de plus en plus loin. Mais à chaque fois que j'arrêtais de jouer, j'étais un peu en mode... ouais, je suis pas sûr d'aimer ce que j'ai fait, je suis pas sûr d'avoir compris ce que j'ai fait non plus, ou d'avoir compris ce que le jeu veut me dire. Mais par contre, il a des mécaniques très intéressantes et parce que je trouve qu'il permet de développer des réflexions sur ce qu'on appelle les films interactifs, un terme qu'on emploie très souvent des fois pour être un peu moqueur vis-à-vis de certains jeux, alors que paradoxalement, contrairement à d'autres jeux qui effectivement pourraient très bien être racontés de la même manière dans un film ou une série télé, je trouve que Immortality il a cette spécificité qu'il n'est exploitable qu'avec les codes du jeu vidéo. Alors il en utilise très peu, il n'a pas un gameplay incroyable, mais par contre c'est un vrai jeu vidéo et c'est ça qui est très intéressant, je trouve.
Et je pense qu'on le retrouve un petit peu là-dedans. Moi, c'est le rapport que j'ai à ce jeu-là, c'est que j'ai eu une phase où j'étais très intéressé par tout ce qui est FMV. C'est les full motion vidéo, la traduction au moins, pour expliquer un petit peu ce que c'est. C'est en gros toutes les vidéos en live qui sont diffusées dans un jeu vidéo. Des fois, ça peut être juste des parties du jeu, mais des fois, ça va être vraiment tout le jeu qui est fait en vraie image, pour le coup, en vraie réalisation. Parce qu'il y a vraiment le côté, même si je supporte pas voir le jeu vidéo ramené à chaque fois, c'est une comparaison avec le cinéma, c'est les cinématiques et blablabla. Il y a quand même tout un truc qui est fascinant autour des FMV, justement, d'utiliser le cinéma pour essayer d'en faire un jeu vidéo. C'est souvent très surjoué, mais du coup on n'a pas les mêmes budgets, donc on n'a pas les mêmes acteurs malheureusement, on n'a pas les mêmes écritures, etc. Bandersnatch, c'était un exemple intéressant, parce que c'était un jeu, donc un film dont vous êtes le héros, à quelque chose près. Mais Sam Barlow, il avait vraiment quelque chose d'intéressant. Je l'avais découvert avec Her Story et Telling Lies, avant d'aller vers le Silent Hill, Shattered Memories. Et Her Story, c'était ultra rafraîchissant comme proposition, pour le coup, c'est vraiment le côté... t'explores le jeu via des caméras de sécurité, pas des caméras de sécurité, mais via un interrogatoire. Du coup, moi, Immortality, quand j'ai entendu que le jeu était annoncé, j'y allais à pieds joints, pour le coup. Et puis, on en apprenait sur le jeu, puis c'était Sam Barlow qui disait « Je vais faire un jeu horrifique en FMV, dans la continuité de Telling Lies. » C'était la promesse, en gros, du mec qui avait fait Silent Hill avec sa sauce, avec son propre studio, avec un budget comme Jaja, pour faire ça. Et c'est, moi, je le trouve fascinant pour le coup. Au niveau, le gameplay est simple mais efficace, dans le sens où bah, on a besoin de deux doigts pour jouer, quoi, c'est tout. C'est de la marche avant, marche arrière, on va en parler. Quoi, mais c'est très efficace, il évoque énormément de choses. Il y a un vrai côté œuvre d'art, il le fait de façon ultra maladroite parfois. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, il y a un vrai côté fascinant quand même, je trouve, dans le jeu. Du coup, après ce petit tour de table, on a. Bah, vous voyez un petit peu le genre de jeu que c'est, en tout cas, déjà qu'on n'est pas d'accord dessus. Après, qu'on l'ait aimé ou pas, je pense que vous avez déjà compris qu'il y a, en tout cas, on a des choses à raconter dessus parce que ça aborde plein de choses, pour le coup. Mais pour vous donner un peu de contexte, Immortality, c'est quoi et ça vient d'où? On a dit, c'est un jeu de Sam Barlow, du coup. Sam Barlow, c'est un développeur, un créateur de jeux, qui a notamment été connu, comme on disait, avec Silent Hill, Shattered Memories, mais qui a ensuite fondé son propre studio, Aftermath Production, avant de lancer, du coup, Her Story. On en parlait, Her Story, c'est son premier jeu, c'est du FMV, encore une fois, réalisé avec un petit budget, parce que là, pour le coup, on était vraiment sur une seule actrice, on était vraiment sur des scènes interrogatoires, plein de scènes interrogatoires qu'on devait regarder les unes à la suite des autres. Grosso modo, le gameplay du jeu, c'était qu'il fallait trouver des mots-clés pour pouvoir avancer et pouvoir résoudre le mystère du jeu. On va pas trop en dire non plus. Mais tout tournait autour de ça, c'était un vrai jeu d'investigation comme ça. Telling Lies, c'était un petit peu la continuité. Et là, Immortality, la promesse qui était faite avec le jeu, c'était qu'on va mettre en place un jeu avec, bah, du coup, pas seulement des extraits d'une scène, par exemple, que d'un seul interrogatoire, mais on va avoir des extraits de trois films. Et même pas que de trois films, pour le coup, on va avoir des extraits de trois films et de leur making-of, et aussi des interviews, et aussi des castings. Donc, il y a vraiment. On va avoir les trois vies de trois films qu'on va pouvoir explorer. Au niveau du gameplay, ça se présente en fait d'une manière assez simple. La première scène, elle est parfaite pour ça quand on lance le jeu, de toute façon. On commence et on a une interview de Marissa Marcel, du coup le personnage du jeu, qui est incarné par Manon Gage. Gage, on sait pas trop, mais Manon Gage, on va dire. Qui est interviewée au moment de son premier film, Ambrosio. Et du coup, on suit une
interview. Dans une espèce de late show.
Ouais, c'est vraiment ça. Bah, on comprend quand on regarde le documentaire de nos clips, en fait, c'est inspiré d'une vraie interview du même moment. On en parlera plus tard, mais c'est une interview. Du coup, on n'est pas sur le film, on commence même pas dans un des films pour le coup. Et on nous explique simplement que la mécanique du jeu, c'est qu'on peut, comme face à un magnétoscope en fait, on peut faire marche avant, marche arrière, pause sur la séquence qu'on voit, on peut l'explorer à fond dans ce sens-là, mais elle a un début et une fin. Et surtout, la mécanique principale après, c'est que ça va être quasiment du point and click, dans le sens où on peut cliquer sur certains éléments dans l'image, pas sur tout, même si j'ai l'impression que le jeu est assez adaptable là-dessus pour le coup. Surtout, bah, je l'avais fait une première fois sur l'iPad avec Netflix, ça s'adapte, on va dire, avec les gros doigts. Mais grosso modo, on va pouvoir cliquer par exemple sur des objets, sur les actrices, sur différents éléments. Et ça va nous amener dans une autre scène, mais pas de façon chronologique. C'est-à-dire que là, par exemple, cette première interview, ça se situe à un moment, en tout cas sur le tournage d'Ambrosio ou un tout petit peu après. Et on peut être projeté dans le dernier film, sur pas la dernière scène, pas tant, mais on peut être projeté 15 ans en avant. On va cliquer sur une autre image, on va être projeté en arrière.
Ouais, parce qu'on a trois temporalités. Ouais.
C'est ça. On va être projeté sur les trois différents films comme ça, pas forcément de fiction en fiction, des fois de partie de making-of, etc. Donc ça, c'est vraiment le gameplay. Ce côté, on manipule un petit peu la pellicule qu'on a devant soi, on essaie de comprendre ce qui se passe, et on peut voyager de pellicule en pellicule. Un petit peu comme tu disais, Brian, là, pour le coup, on n'est pas loin du doom-scrolling, pour le coup, on est sur un tunnel. Ça, on va dire que c'est le gameplay du jeu. Pour ce qui est de l'histoire, je vais essayer de résumer au mieux un petit peu pour donner le contexte, et on va revenir de manière sur les éléments au fur et à mesure. Si on prend ça d'un ordre chronologique, le but du jeu, en tout cas le premier but du jeu qu'on nous donne, c'est de comprendre ce qui est arrivé à Marissa Marcel, à l'actrice du coup qu'on voit de manière sur l'écran titre s'asseoir sur la chaise. On comprend vite que c'est une actrice qui a tourné dans trois films du coup, respectivement Ambrosio, Minsky et Two of Everything, qui a eu des temps du coup où elle a complètement disparu des écrans, entre Minsky et Two of Everything, et qui a disparu aussi après le dernier film. Aucun de ces trois films n'a été distribué à la fin, donc on est un petit peu sur le truc de c'est une actrice qui a joué dans trois films maudits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-elle? Où est-ce qu'elle est arrivée? Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avec elle? On commence à la suivre du coup dans Ambrosio, le premier film, qui est un film qui se situe dans la fin des années 60, début des années 70. On est vraiment sur. On n'est pas sur des films d'exploitation, mais pas loin, où c'était les films très italiens, juste avant les Giallo. C'est un film religieux où on incarne une nonne dedans, qui va rencontrer du coup un prêtre qui est Luc.
Qui est censé incarner la pureté absolue.
C'est ça, qu'il va rencontrer...
Ah, physiquement, c'est Jésus.
Ouais, voilà, physiquement, c'est la même barbe, il a la même tête. Il va rencontrer deux nonnes et tout va être question de séduction, de tentation, de sexualité. On va en parler beaucoup pendant ce podcast, mais il y a un petit peu tout ça avec une bonne grosse dose de surnaturel qui va arriver à la fin du film.
D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Ambrosio, il cherche à adapter le roman Le Moine de Lewis. J'ai vu ça en préparant l'émission, donc si jamais des gens veulent creuser le sujet, il y a ce bouquin qui existe en vrai pour le coup.
Exactement. Et le film du coup ne sera jamais diffusé, mais par contre l'actrice Marissa Marcel va se mettre en couple avec le directeur de la photographie du film, qui lui ensuite va réaliser le prochain film Minsky, qui lui est un bon cliché du film d'enquête des années 80, un petit peu à la Angel Heart, où là Marissa Marcel, autant dans le premier film elle incarnait, c'était vraiment son premier film, donc elle avait 17-18 ans, elle avait un côté candide même, qui s'efface qu'au fur et à mesure du film, mais ça restait son premier rôle, elle était un petit peu gauche. Là, dans Minsky, elle est vraiment dans le côté du rôle de la femme fatale. On a l'impression de voir une Brigitte Bardot, presque. Et le plot du film, c'est qu'elle y incarne cette fois-ci la muse d'un artiste qui a été retrouvé mort, du coup, au début du film, avec le pénis coupé. Comme c'était sa muse, elle va faire partie des premières personnes qu'on va interroger. Et tout le film va se baser autour de elle, du coup, et de sa relation aussi avec le policier. Et du coup, comment ce policier, en fait, est très droit dans ses bottes. On n'est pas dans le hard-boil avec le flic déprimé, alcoolique, etc. Mais c'est un flic un peu taciturne, mais qui est vraiment, par contre, droit dans ses bottes, lui, pour le coup, qui sait ce qu'il veut faire, qui a ses valeurs et qui veut résoudre le...
Très droit, un peu prude, hein, d'ailleurs. C'est ça qui est très rigolo, de le voir s'acoquiner avec le personnage de Marissa Marcel. Il y a une scène où... Oui, on peut dire qu'il se, en tout cas, il s'habille en femme. Enfin, il se déride un peu, et tu vois que c'est vraiment l'américain de base qui vient de la campagne, qui est très très terre à terre, très fermé. Donc c'est la petite différence entre les deux, et elle est très sympathique à suivre.
Ah, complètement. Puis c'est mis en avant, ça, en plus, par les parties making of, parce qu'il vient vraiment de la campagne. Mais pour le coup, c'est son premier tournage à New York, et elle est sur l'autre côté. Pour le coup, c'est vraiment elle est dans le cliché de cette vie artistique new-yorkaise, propre à la Andy Warhol. Pour le coup, elle est extrêmement libérée de tous les points de vue, pour le coup. Elle va l'emmener, du coup, dans ce monde-là. On va découvrir à la fin du film qu'en fait, c'était elle qui avait tué son mari. Mais de la même manière, le film ne va pas pouvoir sortir. On restait là pour l'instant, mais à cause d'un accident qui s'est passé sur le tournage. Il va y avoir un gap de plusieurs années, où là, on va plus voir, du coup, Marissa Marcel. Et on va tomber sur Two of Everything, du coup, qui va être son dernier film, qui est tourné, qui apparaît à la fin des années 90, où là, on switch encore de registre, là où les deux premiers étaient vraiment des fouets de leur époque, là, on est vraiment aussi sur un film qui est presque un téléfilm, pour le coup. Cette fois-ci, elle incarne une pop star avec un nouveau trope du genre où elle va être... elle en a marre, du coup, de subir cette célébrité, elle va vouloir engager un double d'elle-même pour aller faire un concert où elle a été payée pour le faire, pour un oligarque, pour une personne très très riche. Et tout le film va tourner un petit peu autour de ça, et elle va disparaître à la fin de ce film-là aussi. Ça, c'est la trame qu'on nous donne au début, et c'est ce qu'on retrace, pas facilement pour le coup, mais c'est ce qu'on retrace quand on regarde les séquences au fur et à mesure, c'est les trois films. Par contre, avec le gameplay qu'on a dans le jeu, on a mentionné qu'on pouvait avancer et reculer. À partir d'un certain moment, pas tout de suite, mais je dirais à partir peut-être d'une heure ou deux, il y a un certain nombre de séquences à passer avant d'avoir les premières apparitions. On va avoir un petit peu des séquences cachées, des séquences, on va dire, maudites, entre guillemets. On va avoir dans un premier temps des superpositions qui vont se passer à l'écran. On n'aura plus Marissa Marcel, mais on aura une autre actrice, pour le coup, qui est nettement différente, blonde, les cheveux plaqués, des fois le crâne rasé, qui va apparaître, qui va prendre sa place par moment. On va avoir des séquences vraiment plus marquées où ce sera plus la superposition. Vraiment, on change complètement les acteurs, les actrices. Et on découvre en fait une sous-couche derrière le jeu. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on découvre vraiment le côté horrifique du jeu. Parce que Sam Barlow l'avait annoncé, mais tout ce qu'on a expliqué juste avant, on était vraiment sur le parti enquête. Même s'il se passe des choses dans les trois films, c'était vraiment ok, on enquête sur les trois films, et qu'est-ce qui se passe. Là, il y a un vrai côté surnaturel qui se déclenche derrière. Il y a une vraie double couche de narration qui se dégage. On va vraiment avoir, on va en parler plus tard, mais en fait, tout l'histoire du jeu, c'est pas sur Marissa Marcel, mais c'est sur deux êtres qui s'appellent The One et The Other One, qui sont là depuis le début des depuis le début des trois films. C'est vraiment la relation entre les deux, la relation qu'ils ont avec l'espèce humaine. On va en parler un petit peu plus tard parce que c'est ça qui est au cœur un petit peu du jeu, mais globalement Immortality c'est ça. Cette première séquence, cette première couche avec les trois films et cette double couche du coup un petit peu avec les films horrifiques, avec la couche horrifique qu'il y a derrière.
Ce qui est intéressant, c'est que la première fois que moi je connaissais pas du tout le genre. Mais du coup, le pitch de base, et du coup, la première fois que ça t'arrive, c'est un côté hyper surprenant. Tu te dis, mais il se passe quoi là? Comment elle a changé de visage, là, l'actrice? et ouais, c'est un côté qui marche très bien, je trouve, au début en tout cas. Donc ouais, ça c'était une bonne surprise, même si du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à une enquête au départ, du coup, un peu à la manière du premier film de Barlow, sans le savoir, mais c'était quelque chose que j'ai trouvé. C'est quelque chose qui m'a le plus plu, on va dire, ce départ avec... C'est la première fois, on va dire, que tu vis ces scènes cachées, on va dire.
Après, je pense aussi que ça dépend dans quelle façon tu as vécu ces scènes. Dans le sens où tu peux tomber dessus, on en parlera du gameplay, mais en cliquant sur un lien qui va t'emmener vers une scène d'un autre film avec ces différences-là, et où, dans un premier temps, tu vas pas forcément comprendre exactement d'où sortent ces personnages-là et quel est le lien vraiment avec le reste. Moi, mon expérience du jeu, ça a été de cliquer sur une lampe, de me retrouver dans un autre film avec des personnages qui n'avaient rien à voir et à me dire ok. Et
tu vois, ça, je suis surpris parce que la première fois que, enfin, toutes les premières fois que ça m'est arrivé, c'était vraiment en reculant en arrière. Donc je pensais que c'était juste pas possible en fait les premières fois de tomber directement sur une séquence avec les autres acteurs.
Je n'ai pas souvenir d'avoir reculé ou avancé de la... En fait, j'ai découvert assez tard dans le jeu qu'on pouvait reculer. Parce qu'en fait, c'est le principe du film, généralement. C'est aussi le principe de beaucoup de jeux de plateforme, qui est de te mettre dans une situation où, généralement, tu vas pas forcément aller à l'envers. Parce que c'est comme ça que s'est construit le jeu de plateforme pendant des années. C'est aussi ce qu'a fait certains easter eggs et certains contenus cachés, qui ont été de dire, tu fais demi-tour à partir du début du niveau et tu vas aller découvrir les écrans cachés qui sont à côté, en fait. Pendant longtemps, j'ai eu cette même idée, et je pense que l'expérience de Telling Lies m'a conditionné, entre guillemets, de ne pas faire de marche arrière dans le jeu. Et ce n'est que très tardivement que j'ai découvert qu'en fait j'avais raté la moitié des trucs, parce que je n'avais pas fait de marche arrière dans Immortality.
J'ai l'impression que c'est peut-être lié aussi à où est-ce qu'on a, sur quelle plateforme on a fait le jeu. Je sais que pour le coup, moi la première fois je l'avais fait sur l'iPad avec Netflix, justement en le disant que je voulais le faire avec ma compagne qui n'est pas du tout branchée jeux vidéo. Parce que la promesse était, justement, c'est du film interactif, essayons. Et sur l'écran, pour le coup, sur l'écran de l'iPad, on a vraiment ce truc d'où on a le pause qui apparaît en haut à droite, et on a avancé et reculé, pour le coup. Le bouton reculer apparaît, donc. C'est marqué que tu peux le faire, mais par contre, t'as pas autant sur les... par exemple, sur la console, qui va vibrer à chaque fois qu'il y a une scène cachée. Sur l'iPad, c'est vraiment juste la musique légèrement qui va te dire qu'effectivement, il se passe quelque chose. Ça peut peut-être être lié à ça. Ou pas du tout, mais... C'est vrai qu'il y a une prise en main qui est un peu... spécial.
Il y a ce qu'a soulevé Bénédicte, que déjà, où on n'a pas forcément l'habitude d'aller à contresens dans la narration, mais en plus, ce qui est très perturbant et que certains peuvent découvrir au bout peut-être de plusieurs heures de jeu, c'est que quand tu arrives dans une pellicule, en plus, la plupart du temps, tu vas pas commencer au début de la séquence. Souvent, tu commences au milieu, parfois peut-être même juste quelques secondes avant la fin. Et en plus, il faut choper la logique de se dire « Attends, je viens d'arriver sur une nouvelle pellicule. Par précaution, je vais appuyer sur le bouton « Remettre au début » pour être sûr que j'ai rien loupé. » Donc, tu as ça. Et en fait, ce que je trouve très malin dans cette deuxième couche de narration, c'est que, après, c'est pour mon expérience à moi, mais c'est qu'il est arrivé un moment où... pas dire que le jeu m'ennuyait, mais c'est un jeu qui est très touffu dans son concept, qui ne te dit rien. Contrairement à la plupart des jeux d'enquête, t'as pas de validation de tes connaissances. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas si tu comprends les choses. Et moi, j'étais un peu perdu. Je fais ok, ouais, je passe d'un film à un autre. C'est très touffu. Il y a des parties making of, ok. Et là, je m'arrête sur une séquence, on va dire avec. Je vais pas dire que la mise en scène était un peu grasse, mais elle était pas très subtile. Il y avait un très gros focus sur. Il y avait un très gros focus sur les pommes et le serpent. C'était la scène où il y a le fameux serpent dans le buisson. Je me suis dit, bon, il y a un tel gros plan sur la pomme et le serpent, je vais faire marche arrière. Et là, tu as cette espèce de visage très, très bizarre, qui moi m'a profondément dérangé. Et là, tu commences à te dire, ok, le jeu est surprenant, on va continuer de gratter.
Tu évoquais, Brian, le fait que on appuyait sur un bouton pour revenir en arrière. Ça n'existe pas, ça, quand on joue sur Netflix. Pour le coup, pareil, j'ai fait le jeu sur Xbox. Et du coup, avec L3, on revient directement au début de la séquence et R3 directement à la fin. Et le jeu, dans le tuto, te l'explique, en fait, ces touches-là. C'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible sur Netflix.
Alors, tu l'as, de mémoire. Il t'explique comment avancer, rebambiner. Donc, tu le fais en swipant, soit de droite à gauche pour avancer dans la pellicule. Mais de mémoire, je n'ai pas souvenir que l'iPad m'a dit, par contre, si tu veux revenir instantanément au début ou à la fin de la pellicule, utilise les deux petits symboles qu'il y a en bas de l'écran. Ça, je l'ai découvert juste parce que je me suis dit, tiens, et si j'appuyais dessus
C'est pas dit dans la version iPad que les deux touches, parce que à l'écran il y a bien effectivement deux icônes en bas à droite, mais c'est jamais dit que c'est l'avance rapide et l'avance rapide c'est l'avance éclair, parce que ça mène directement à la fin, et puis retour éclair du début.
Alors que si tu joues en swipant, c'est toi qui modules la vitesse d'avance ou le retour en arrière.
C'est ça, et puis de toute façon, globalement, ceux-là qui ont utilisé que ces touches-là pour reculer n'auront jamais vu les séquences de surimpression.
Mais c'est étonnant en termes de concept que. Parce que moi, il me semblait. Enfin, vraiment, ça a été assez intuitif pour le coup sur Xbox d'appuyer sur L3 pour reculer au tout début des séquences. Je ne l'ai pas fait tout de suite, mais très vite, c'est venu le fait que je pouvais faire ça. Et donc après, c'était presque un réflexe, chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle séquence, d'appuyer sur L3 quoi, pour regarder la séquence en entier. Donc c'est marrant qu'on ait des différences comme ça de relation avec le jeu, même alors qu'il y a des contrôles assez basiques qu'on a réussi à même pas en saisir. Tu te dis qu'il y a. Il y a peut-être, je sais pas, un petit truc qui va pas apparemment dans le design, ou peut-être que c'est voulu hein, aussi que ça soit cryptique. Mais c'est vrai que par exemple, comme disait Bénédicte, en arriver à plusieurs heures de jeu sans avoir capté qu'il y avait ce retour en arrière, c'est incroyable quand même.
Alors, c'est pas que j'ai pas capté qu'il y avait le retour en arrière, c'est juste que je n'avais pas compris au début que je n'arrivais pas au début de la séquence.
Ça, on met du temps à le comprendre. Oui.
C'est ça le truc. Et le truc, c'est que j'ai bien vu qu'on pouvait avancer et qu'on pouvait reculer, mais je pensais que je pouvais reculer pas au-delà de là où je venais d'arriver, en fait.
Oui, ok, ouais. Je comprends.
C'est cette idée-là. Voilà. Et c'est cette idée de j'arrive dans une séquence, je vais forcément la mettre en lecture, je ne vais pas forcément la mettre en marche arrière dans un premier temps. Et je pense pas que ce soit une erreur entre guillemets de gameplay, mais vraiment l'idée de jouer avec les codes aussi bien du jeu vidéo que du cinéma. Parce que quand on lance une cassette, on peut arriver à n'importe quel endroit. Quand on met une cassette dans un magnétophone, alors ça parlera pas aux plus jeunes d'entre vous, mais bon voilà, pour les auditeurs bien sûr, mais forcément on n'arrive pas forcément au début, etc. En termes de gameplay au niveau jeu vidéo, c'est assez absurde dans certains niveaux narratifs, etc., d'arriver en plein milieu d'une séquence. Et c'est aussi ce jeu avec les codes du jeu vidéo et du cinéma qui donne aussi cet aspect un peu étrange, un peu étonnant, et ce gameplay qui peut avoir l'apparence d'aller à contre-courant, alors qu'en réalité, il est profondément logique à partir du moment où il prend des inspirations du cinéma et du jeu vidéo, quoi. Et c'est aussi dans ce point de vue-là qu'il est intéressant, parce que en mettant des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller à contre-courant et de commencer par là, et de faire demi-tour quand on les met devant le début d'un niveau, entre guillemets, ça donne aussi cette impression assez étrange de devoir forcément, pas forcément d'ailleurs recommencer du début de la séquence, parce que du coup tu rates des images en surimpression, mais justement d'y aller progressivement dans les deux sens.
Ah ben moi de toute façon la chance que j'ai eue, juste un petit truc, c'est que moi comme j'ai fait Her Story and Telling Lies avant Immortality, bah, je savais en fin de compte que quand j'arrivais dans la séquence, j'étais pas au début de la séquence, parce que c'était déjà un truc qui se faisait déjà dans ce jeu-là. Donc moi, c'est déjà un code que j'avais de Sam Barlow, de la manière dont il concevait ses jeux, et voilà.
Mais tu vois, je l'ai moins ressenti avec Telling Lies, pour le coup, parce que j'avais fait Telling Lies avant, et je l'ai beaucoup moins ressenti, ce côté... Et au pire, avec Telling Lies, t'avais vraiment juste besoin de recommencer au tout début de la séquence, t'avais vraiment pas besoin de faire presque du image par image, en fait.
Bien sûr. Oui.
Je pense que là, ce qu'il a mis en place pour le coup, et c'est, ça va nous faire la transition avec la première partie, c'est que ça ne nous l'est pas dit directement en fait dans le jeu, mais c'était dit dans la com. Dans le jeu, on incarne un monteur pour le coup. on comprend au fur et à mesure du jeu, mais c'est vrai que si on se pose pas la question de bah, juste on saute d'image en image, etc., techniquement, c'est vraiment on incarne un monteur qui est face à une pile, pour le coup, de pellicules, et qui doit comprendre ce qui s'est passé juste avec cette pile de films. C'est pas vraiment mis en scène, mais du coup, une fois qu'on comprend ça, qu'on assimile un petit peu le côté, bah, on est monteur, là, du coup, voilà, ce gameplay de... On est sur un gameplay de cinéma, avec des mécaniques de cinéma, fait plus sens, et c'est là où on commence à rembobiner, etc., elle est un petit peu plus dedans. Et je pense que ça commence vraiment là, sa passion du cinéma. Bah, vas-y, Axel.
Dans le tuto, il y a marqué voilà la machine, genre plus le nom de la machine. C'est une machine que vous utiliseriez si vous deviez faire ça. Tu vois, en plus, le tuto te dit
ouais.
Voilà, t'es dans un univers imaginaire, mais mets-toi dans cet univers imaginaire-là. Voilà, il te dit le conditionnel en plus, le tuto. C'est ça qui me fait rire aussi.
Et on est vraiment sur ça, du coup, c'est, bah, c'est ça, le tuto nous explique bien. Et on... bah, c'est un des premiers trucs qu'on va voir vraiment toute la. En dehors du fait de regarder trois films différents, on disait Sam Barlow, c'est un amoureux du cinéma. Ça se voit pendant les trois films. C'est quelque chose qui est très clair aussi quand on, bah, quand on écoute des interviews de lui ou même quand on regarde le documentaire de nos clips. Quand je dis des interviews de lui, je vais être générique parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement bavard pour le coup, qui accepte facilement les interviews. Il a notamment fait une sur Silence on joue, sur YouTube, vous tapez Sam Barlow interview autour d'Immortality, de ses jeux de manière. Il y en a en pagaille, et il est vraiment fascinant à écouter parler. Et on sent vraiment pour Immortality, il a eu une emphase à mettre sur le cinéma qui est assez... C'est vraiment un côté érudit pour le coup, en dehors de la passion pour telle ou telle période. Il aime comment les films sont faits, il aime comment les films sont racontés. Il a un vrai truc sur les making-of des films. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, en tout cas, sur le côté sur l'influence du cinéma. C'est qu'on on capte que les trois films, c'est... Ambrosio, c'est un poil le cliché du film, un poil horrifique, érotique des années 60-70 qu'on trouve à cette époque-là.
Voilà, il y a un côté, il y a un côté un peu Hitchcock libidineux dans Ambrosio, couplé avec du cinéma italien, c'est clair. Et puis Minsky, comme tu as abordé, il y a un côté très polar. J'avais évoqué quand on avait préparé le podcast, l'ambiance de Minsky m'avait fait penser. Au film avec Al Pacino et Helen Hunt qui s'appelle Mélodie pour un meurtre. Son titre original c'est Sea of Love, si je dis pas, ouais c'est ça, Sea of Love, si je dis pas de bêtises. Et c'est marrant parce que du coup je suis tombé sur une page juste avant de préparer l'émission où sur une page Letterboxd de Half Mermaid, le studio, qui liste les 40 films qui ont ont inspiré Immortality. Et on retrouve effectivement du coup Sea of Love, du Cruising, on retrouve du Othello, donc il y a énormément, enfin pour le coup ils sont, comme tu l'as dit, ils sont pas avares en détail sur toute la production.
Ce qui est intéressant c'est que aussi dans le jeu c'est qu'il y a un côté hommage. Moi c'est des genres de films qui me parlent moins, tout ce qui est vieux film, je suis désolé pour vous. Et du coup c'est vrai que par exemple Ambrosio au début j'ai eu beaucoup de mal, hein. Franchement c'est difficile de rentrer dedans parce que c'est très particulier, hein. Donc que ça soit dans l'histoire ou même dans la manière dont c'est filmé, on va vous mentir, au départ les séquences d'Ambrosio j'avais furieusement envie de les sauter et de cliquer sur le premier truc que je voyais dans l'image parce que ça m'intéressait pas du tout, là où par exemple Minsky j'ai beaucoup plus apprécié, tout de suite j'ai été pris dans l'histoire du polar. Mais c'est vrai que Ambrosio avant de vraiment d'avoir les séquences où je pouvais revenir en arrière et chercher les séquences cachées, j'avoue que ça me faisait beaucoup souffler de les regarder, quoi. C'était compliqué.
Alors qu'en plus, c'est le film où il y a le plus de footage, pour le coup. Je crois que c'est... si on regarde sur YouTube, on peut trouver en fait tous les films mis bout à bout. Je crois que c'est celui qui fait 3h30, en fait, tout compris.
En plus, en termes de thématique, c'est aussi celui sur lequel c'est le plus facile d'avoir des inserts sur The One as the Other One,
oui.
En fait.
Cadeau, là, oui.
Là, c'est... Voilà. À se demander si c'est pas celui-là qui est central, au final.
Bah, si je dis pas de bêtises, t'avais dit que le projet, Julien, en off, quand on a préparé l'émission, que le projet à la base s'appelait justement Ambrosio, en tout cas c'était le nom de code du projet.
Ouais, c'est ça. Et c'est toujours pareil, c'est toujours dans le documentaire, on voit que c'était. C'est à quel point le mec est taré pour le coup. Enfin, il était pas tout seul, il avait trois scénaristes avec lui. Mais à la base, il avait fait un script de 420 pages pour le projet. Ça s'appelait le projet Ambrosio. C'était déjà plus ou moins, du coup, cette idée de jumper de film en film. Je sais pas à quel point c'était centré uniquement sur ce film années 60-70, mais en tout cas, ouais, c'était le projet Ambrosio, qui a ensuite été découpé en trois autres scripts de 300 à 400 pages, Pour ceux qui n'ont pas forcément les références, c'est assez conséquent. Même pour du cinéma, pour le coup, en script, c'est vraiment balèze. Donc c'est le côté fou, en fait. On en parlait quand on préparait le podcast, mais Sam Barlow est vraiment passé d'un truc où c'était centré sur une seule personne avec Her Story, un peu plus d'acteurs sur Telling Lies, à une trilogie avec des making-of, et on va aussi insérer un petit peu comment on les a castés, comment on fait des interviews. Il y a un côté vraiment... presque trop pour le coup, mais c'est ce côté généreux qui est moi en tout cas qui me fascine quoi. Et on a ça quand on disait des influences, on était sur Minsky. To Everything, on est encore sur un autre truc où c'est là où je pense qu'on n'est pas forcément d'accord parce qu'il donne un petit côté un petit peu téléfilm pour le coup quand on le voit. Et c'est je pense que c'est vrai parce que t'as vraiment ce côté, les perruques sont moins bien, les fringues sont moins bien taillées. Les trois quarts des acteurs jouent mal.
La colorimétrie, dedans. Surtout.
C'est surexposé.
Ça ressemblait au genre de choses que je pouvais tomber. Alors, ça parlera peut-être pas aux plus jeunes non plus, mais quand il y avait le câble et que j'étais ado et que je tombais sur TF6 un dimanche après-midi, ça ressemblait un peu à ce type de production.
Il y a ça, mais genre. Moi, je crois que ce qui m'a influencé, en fait, c'est que c'est avec ce film-là que j'ai eu ma première. La première scène cachée. Je sais plus si c'était la scène où elle a les deux masques ou une autre, mais c'est le premier truc où tu commences à avoir avoir été dans ton tunnel pendant 2-3, ça devait bien faire 3 heures, à te dire « bon, c'est sympa l'investigation, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Ça a fait ce switch du coup, je pense que c'était avec les masques en fait, pour le coup, parce que moi la première référence que ça m'a fait penser à Eyes Wide Shut, enfin truc bête, il y avait des nichons, il y avait des masques, c'est venu assez facilement, et il y avait ce côté un petit peu kubrickien du pauvre qui ressortait, où j'ai plus vu ça que le côté téléfilm pendant un temps.
Ouais, moi je trouve que dans le script, même dans le script, en fait, c'est ce côté vraiment téléfilm que je regardais, bah, pareil, quand j'étais petit sur TF1, TMC, etc. Et t'as ce côté où, ouais, c'est vraiment l'histoire, tu le sens venir, quoi. Tu sais tout de suite ce qui va se passer. Enfin, pour le coup, c'est peut-être un film où tu comprends, t'arrives le plus à remettre bout à bout ce qui se passe, parce que c'est assez simple au final. Donc, ouais. Je suis d'accord sur le côté téléfilm, mais même dans le script.
Ah, et puis c'est simple, oui et non, c'est celui où on sent plus l'influence de, je pense, de David Lynch sur l'ensemble du jeu. De la même manière, il s'en cache pas pour le coup, et la narration du jeu rentre bien dans le côté David Lynch, où c'est rien n'est raconté dans le bon ordre pour le coup, il y a toujours une double couche, et ça fait penser un petit peu à Mulholland Drive. Bon, on voit vite le parallèle pour le coup entre les deux actrices de Mulholland Drive. Et les deux actrices de To Everything, où pour le coup, la Marissa Marcel, elle incarne les deux actrices. Il y a ce côté-là qui joue un petit peu aussi. C'est... vas-y, Brian.
Du coup, David Lynch, oui, parce que même s'il y a un côté très téléfilm, c'est là où j'ai pas envie d'être sévère sur ce film, parce que c'est clairement volontaire, en fait. T'évoques David Lynch, mais quand j'ai vu les premiers shots de To Everything, du coup... Ça m'a donné le même sentiment que la première fois que j'ai découvert Twin Peaks, les premiers épisodes, où t'avais ce côté, t'avais le côté enquête policière de, t'avais le côté enquête policière de Twin Peaks. En même temps, que ce soit dans la mise en scène, le fait de raconter la ville de Twin Peaks, le générique volontairement kitsch, il y avait aussi cette volonté un peu de faire une parodie de soap opera. Et il y a exactement le même feeling sur ce troisième film de Immortality, en fait.
Ouais, pour moi, ce qui est aussi intéressant sur le fait que ça ressemble à un téléfilm, c'est que c'est le même réalisateur que Minsky. Je vois plus de son nom. C'est le même réalisateur que Minsky. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça raconte aussi l'histoire du réalisateur, où est-ce que c'est un mec qui semblait assez brillant, capable de faire des grands films.
Le réalisateur, du coup.
Voilà, John Durick, qui semblait être brillant et promis à une très bonne carrière, et en fin de compte, là, on retrouve à faire un film vraiment d'une qualité inférieure à Minsky, alors que c'est peut-être 10 ans plus tard qu'il le fait, quoi. Donc j'aime bien aussi la surhistoire que ça raconte, la réalisation et le script du film.
J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça avec ce côté lynchien. Bah, comme tu dis, c'est pas tant que c'était qui fait de la parodie avec Twin Peaks ou même avec ce qu'il a fait après. C'est que c'est vraiment reprendre les codes d'un genre qui est extrêmement aimé par c'était par l'Amérique moyenne, pour le coup, qui était le soap opéra à cette époque-là, qui était très rassurant. C'est le côté, c'est le rêve américain, c'est la petite campagne, etc. Mais en fait, il y a un truc un petit pervers qui se cache derrière. Ça, en fait, dans Twin Peaks, sans trop en dire, mais c'est bien plus dark que ce qu'on peut voir tout de suite. Vraiment bien plus dark. Tout le jeu, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi, pour le coup. Dès qu'on découvre la sous-couche, il y a ce côté un petit peu lynchien de « c'était une enquête policière ». Non, non, pas du tout, en fait. Il y a deux espèces de vampires, êtres divins,
vampires
qui sont plus grands que l'histoire du jeu, du film, du jeu. Bah, ça marche aussi, en fait.
C'est pour ça que je trouve que la première séquence est vachement intéressante. Parce que non seulement il met en place toutes les thématiques sur la manière, sur la vision de la femme dans le milieu de l'entertainment, et aussi il commence directement avec un moment de célébration, enfin de gloire, entre guillemets, avec le mec qui a interviewé la jeune actrice, qui visiblement elle aussi est promis à une grande carrière, tout ça, même si il y a un côté un peu dégueulasse de la manière qu'il la regarde.
C'est libidineux.
Mais, ah bah oui, mais dès le début, en fin de compte, on a tout ce qu'il faut pour comprendre où le jeu va nous emmener. Et ça, j'ai trouvé ça super, super intelligent aussi de la part de Barlow de commencer par cette séquence-là. Plutôt que par le premier casting qu'elle fait avec Arthur Fleischer. C'est vrai que ça aurait pu être logique aussi de commencer par ça, mais commencer par l'après Ambrosio, je trouve ça une très bonne idée.
C'est le moment jonction en plus, pour le coup. Elle passe de... Elle a encore jeune première, Candine, mais tu sens qu'elle est affirmée, puis elle commence à aller voilà, vers ce côté un petit peu femme fatale affirmée, où elle... Bah c'est ça, répond aux questions du mec en face. Ah, vous avez 16-17 ans. Tu sens qu'elle essaie, malgré elle, d'en jouer, malgré le contexte, pour le coup. Mais je pense que c'est comme disait Bénédicte, c'est vraiment le premier film Ambrosio. C'est la synthèse. C'est pas la synthèse, mais t'as toutes les bases, en tout cas, pour comprendre bah, où va le film, où va l'actrice, qu'est-ce que c'est The One, qu'est-ce que c'est The Other One. Très curieux. Je pense que mathématiquement, ça doit être le film qui contient le plus de séquences cachées. C'est le plus long, donc ça serait pas étonnant. Je pense qu'au total, j'avais vu dans le making-of, il y a à peu près 220-230 séquences en tout dans le jeu, dont un bon c'est tiers ça, sont ouais. Les séquences cachées. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une bonne trentaine, ne serait-ce que dans Ambrosio. Quoi. Puis ça va nous permettre, je pense, de glisser doucement vers la deuxième partie, qui va taper un petit peu dans la narration. On a déjà parlé un petit peu avec le côté d'un petit peu David Lynch. Le côté FMV, le côté vraiment où c'est... Est-ce qu'on est sur du film interactif? Est-ce qu'on est sur est-ce qu'on est sur du Bandersnatch? On n'est pas sur Quantic Dream. Pour le coup, c'est des jeux à choix multiples, avec des questions à choix multiples, avec des embranchements multiples qu'on peut refaire. Detroit Become Human, c'était le meilleur exemple de ça. Pour le coup, on a fini une séquence, on voit les différents embranchements, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Là, on est sur un truc vraiment bien plus cryptique. Comment vous l'avez un petit peu abordé cette narration, vous?
Alors, moi, ça a été assez simple. Comme je disais tout à l'heure, j'avais fait Telling Lies, j'ai vu Immortalité sortir, je me suis dit, c'est parti. Et je suis partie du principe que j'avais toutes les cartes en main dès le début et que je pense actuellement qu'on est 5 ici ce soir et que nous sommes 5 à avoir eu 5 expériences de jeu complètement différentes.
C'est très possible.
À part la première scène, parce que forcément, il faut bien qu'on commence quelque part, à part cette première scène, on n'a pas cliqué aux mêmes endroits, on n'a pas fait les mêmes choix et on n'a pas voyagé de la même façon. Moi, je sais que personnellement, à partir du moment où j'ai vu que je pouvais cliquer sur les objets, j'ai trouvé ça follement amusant de chercher les lampes, les valises, les portes. Parce que justement, c'est un type de narration qui est complètement différent d'aborder les films, non pas par leurs acteurs, qui sont généralement les personnages principaux et les personnes qui focusent toute l'attention, mais justement par ce qu'on voit pas, par ce qu'il y a dans le décor et par des éléments qui, finalement, vont se retrouver à droite, à gauche. J'ai trouvé cette approche très intéressante.
C'est intéressant ce qu'il a dit, parce que je pense qu'effectivement, on n'a pas tous eu la même approche. Par exemple, Béné, elle a fait une fixette sur les objets. Moi, je l'avais déjà dit pour le podcast sur Outer Wilds, moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, de très rationnel. Donc, moi, je suis parti dans l'idée, Marissa Marcel a disparu, donc c'est qu'il a dû se passer un truc, crime, passionnel, par exemple. Donc, moi, j'ai fait une fixette sur les regards des acteurs. Je me dis, devait y avoir des relations, devait y avoir quelque chose. Et je regardais les pellicules, et dès qu'il y avait un regard hors champ, un regard un peu libidineux, un regard un peu rancunier, ou ce que tu veux, je faisais un zoom sur les regards, en fait. Et c'est comme ça que j'ai structuré mes premiers voyages au cœur des pellicules.
Ce qu'évoquait Béné sur le fait qu'on avait tous eu un rapport différent de construire notre aventure différemment, d'enquêteur. C'est vraiment totalement ça, parce que là, pour le coup, moi, c'est encore différent de vous deux. Moi, j'ai été plus, on va dire, encore plus carré, on va dire. C'est-à-dire que j'ai commencé par énormément cliquer sur Marissa Marcel à chaque fois en boucle pour pouvoir essayer de trouver le plus de séquences possible, en fait. Et puis après, progressivement, j'ai commencé à faire d'autres personnages, mais du coup, je faisais que ces autres personnages en boucle. Et j'ai eu un aspect où je découvrais énormément de séquences avec Marie, enfin, centré du coup sur Marissa Marcel, ou en tout cas, tous les liens qu'il y avait entre les séquences quand on cliquait sur son visage. Et puis après, j'ai fait un autre personnage, et puis un autre. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez amusant de se rendre compte que chacun a eu une approche différente en fonction de ses sensibilités, de son pas, son passif, etc.
Oui, puis c'est d'autant plus une approche différente qu'on peut se perdre. En ce sens que, moi, la première chose sur laquelle j'ai dû cliquer, c'est une lampe, parce que, justement, on pouvait cliquer sur une lampe et je trouvais ça étonnant. Donc, moi, je me suis dit, ça y est, c'est l'arme du crime, elle a été butée à coups de lampe, machin. Après, j'ai pu cliquer... Exactement. Après, j'ai pu cliquer sur la valise. Je me suis dit, putain, ils l'ont planqué dedans pour le bout de cadavre, machin. Enfin, bref. Mais aussi, très, très vite, j'ai complètement oublié que je devais chercher Marissa Marcel. J'ai oublié. Parce que j'ai été intriguée par ces trois films, parce que... Alors, j'avais pas encore vu The One et The Other là, mais parce que, justement, je voulais comprendre pourquoi ces trois films en particulier, en fait. Qu'est-ce qui a poussé le choix de trois clichés du cinéma ? Parce qu'au final, ce sont que des archétypes. Ce ne sont que des archétypes. C'est l'archétype du film religieux italien des années 50-60. C'est l'archétype du polar des années 70-80, un peu cousu de fil blanc, mais quand même. Et c'est l'archétype du soap opera, téléfilm, généralement en plus de fin de carrière. Et puis en plus, il y a une autre distinction qui est de... Mine de rien, même si ça reste un classique en Italie dans les années 50-60, le film religieux reste quand même plutôt typé film d'auteur. Le polar reste typé un peu plus grand public. Et le troisième reste typé le téléfilm de l'après-midi. Et il y a aussi, pour moi, il y avait aussi une progression dans la carrière de l'actrice. Qui commence par un petit film pas forcément connu, qui gagne un peu de notoriété et qui se retrouve dans un film un peu plus gros budget, entre guillemets, pour finir sa carrière, comme beaucoup d'acteurs malheureusement, dans la déchéance, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, n'est-ce pas, de ce téléfilm regardé que par une certaine tranche de la population.
Je pense que la liberté du jeu nous permet ça aussi. Ce qu'on expliquait au début, pour le coup, on doit comprendre ce qui est arrivé à Marissa Marcel et avec tout le contexte. Ça, on comprend après quelques heures de jeu, du coup, de tout ce qui s'est passé. Parce que le seul truc qu'on sait au début, c'est découvrir ce qui arrivait à Marissa Marcel. C'est une actrice. Et on met franchement du temps à sauter d'image en image pour comprendre que, déjà, il y a trois films. Il y a les trois parties making-of. Il y a effectivement le temps de comprendre que les trois films, c'est des films, comme tu disais, qui sont clichés, ou en tout cas, qui sont très symptomatiques de leurs époques. T'as vraiment ce côté, en fait, où c'est... je pense qu'on peut chacun s'approprier le truc en mode... Soit on a un aspect très enquêteur, pour le coup, ou même si on est un poil passif, je dirais pas jusque-là, mais on regarde les séquences et on va regarder effectivement s'il y a des éléments qui reviennent à chaque fois. Je sais que moi, la fixette que j'avais eu à un moment, c'était de cliquer sur les verres, parce que pour le coup, ça menait à chaque fois des scènes alcoolisées, au final, plus qu'autre chose.
Moi, j'ai une fixette sur les pommes. Il y a beaucoup de pommes dans Immortality.
Ah là, c'est le plus
en même temps, il y a un film religieux.
En même temps.
Ah, perso, moi, c'était les claps. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup des claps dans Immortality.
Quasiment à chaque séquence, ouais.
C'est marrant que vous ayez fait des fixettes comme ça sur les objets. Parce que moi, j'ai vraiment eu ce truc aussi, au-delà des personnages, plus tard, on va dire, de vouloir voir un film en particulier. C'est-à-dire que moi, c'était donc Minsky, le second film qui me plaisait, qui me parlait bien. Donc j'avoue que vraiment, c'était la course aux séquences de Minsky. Et parfois, je sais que par moments, c'est... C'est comme ça qu'il fallait, on va dire, le jouer, mais parfois je sautais des séquences en cliquant directement sur un objet pour essayer de retomber sur une séquence de Minsky parce que juste le film me plaisait bien. J'avais pas encore découvert ces séquences cachées. Donc de toute façon, je savais pas trop ce que je faisais, donc je me disais, quitte à t'as pas savoir ce que je fais, autant me balader un peu au hasard et juste me faire plaisir. En plus, j'avais un peu ce côté un petit peu petit ennui, on va dire, à un moment donné, même si on est bien dans un tunnel quand même, c'est-à-dire que ce côté enchaînement. Au début, je me disais, c'est un peu long. Et puis finalement, 2 heures plus tard, j'étais encore dessus à trouver des nouvelles séquences. Donc, j'ai pas du tout le même rapport là-dessus. C'est vrai que... Et du coup, c'est, je pense, une réussite du jeu parce que du coup, il peut convenir, je pense, à beaucoup de monde, et chacun pourra y trouver son compte, on va dire, dans sa manière d'explorer. Finalement, il offre beaucoup de possibilités, ce jeu, avec très peu de touches, on va dire, et de possibilités dans le gameplay.
Mais c'est pour ça que quand j'en ai parlé sur le fait qu'il avait un côté fascinant, malgré le fait que je peux pas dire que j'ai aimé ou pas aimé, c'est que c'est un jeu vidéo. Tu prends un Quantic Dream, même un D3 qui est très touffu en termes d'arborescence, dans l'absolu, t'as un côté ludique très pauvre qui va se limiter à te faire des choix dans une situation parfois plus ou moins critique. Mais comme on l'a vu avec Bandersnatch, tu peux faire une série comme ça. Ça demande pas forcément de très grosses mécaniques. Là, on a tous raconté notre rapport au jeu, à la narration, comment on s'est construit, comment on se l'est approprié. On a 5 récits totalement différents. Je pense que si on s'était amusé à faire un journal de bord de la première minute jusqu'à la dernière minute de jeu, on aurait 5 journaux qui n'ont absolument rien en commun. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait. C'est que c'est un film, enfin, en tout cas, qui reprend quasiment que des codes du cinéma, mais qui, paradoxalement, arrive à les mixer avec le code du jeu vidéo. Il y a un côté, presque physique, organique, en fait, dans le fait de te faire jouer un monteur. Parce que même si t'es pas comme un monteur de l'époque où t'as pas la pellicule entre les doigts, il y a le fait que tu te l'appropries. T'es pas juste en train de regarder ton écran et d'appuyer sur un bouton à un moment T. Tu joues avec la pellicule, tu la fais avancer, en avance rapide, en marche arrière, etc. Tu vas zoomer dessus. Quand tu vas avoir ces espèces de flashs de sous-couches, tu vas continuer à jouer avec. Moi, j'y ai joué sur iPad, donc c'est peut-être plus compréhensible ce que je dis quand on y joue sur iPad qu'avec une manette entre les mains, mais t'as vraiment l'impression de jouer avec l'objet filmique, en fait.
Sur l'iPad, t'as vraiment le côté où pour rembobiner, tu peux faire le geste de rembobiner avec le doigt.
Ce que j'allais dire, pour le coup, les touches sur la manette sont bien implémentées, parce que c'est assez naturel. T'appuies sur L2, t'appuies sur L3, t'appuies sur R3. La partie gauche de la manette est dédiée, on va dire, à tout ce qui est reculé globalement, la partie droite à tout ce qui est avancé. Non, franchement, il y a un truc assez aussi naturel à vraiment jouer comme si tu rembobinais quoi, avec ta télécommande à l'époque des cassettes. Quoi.
Oui, mais en même temps, je comprends ce que dit Brian dans le sens où il y a ce côté-là avec les manettes, mais c'est absolument pas la même chose que d'avoir ton écran entre les mains. Et en ce qui concerne si tu as joué sur tablette ou sur téléphone. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui vont tenter l'expérience en ayant principalement l'expérience de YouTube plutôt que d'avoir l'expérience de notre crayon et de la cassette vidéo qu'on rembobinait plus ou moins à la main quand c'était pété. Et donc à partir de là, avoir le truc entre les mains et avoir plus ou moins les mêmes contrôles que si tu regardes une vidéo sur YouTube, ça n'a pas le même impact en termes de gameplay, même si à la manette, c'est très agréable à jouer. Et ça n'a pas le même impact en termes de gameplay, et tu n'as pas la même façon de faire attention non plus aux images. Parce que comme on le disait tout à l'heure, sur téléphone, ton téléphone ne vibre pas. C'est une musique, c'est un truc spécifique. Alors que ta manette vibre entre tes mains, si tu as actionné la vibration, bien entendu. Et on n'a pas du tout le même, il n'y a pas le même rapport. Même si c'est le même jeu, t'as pas le même rapport au jeu. Et je pense, si on tire un peu, que d'un côté, t'as le plus le rapport jeu vidéo avec la manette entre les mains, et d'un autre côté, t'as plus le rapport cinéma avec ou vidéo YouTube ou vidéo ou ce que vous voulez, avec justement le fait que tu as ton écran entre les mains et que tu touches, tu zoomes, tu manipules ça comme tu manipulerais n'importe quelle vidéo sur ton téléphone, et t'as pas du coup tout le même rapport au jeu, en fait.
Après, je trouve qu'il y a aussi une autre manière de jouer au jeu qu'on n'a pas parlé, c'est clavier-souris. Enfin, tout du moins, souris tout court. Ouais, souris tout court. Moi, c'est comme ça que je fais Immortality pour la première fois. Et c'est vrai que moi qui monte beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, vous en faites quelque chose. Et bah, du coup, c'était un truc aussi assez cool parce que je trouve que Telling Lies avait déjà commencé à. Comment dire? Dans le jeu vidéo, on incarne une personne écrite généralement. Même si on prend les RPG comme Mass Effect et tout ça, c'est toujours des personnages qui sont écrits par les auteurs. Même leur réaction est écrite en amont. Là, pour Immortality, Sam Barlow te propose d'incarner toi-même, d'être un acteur, en fin de compte, au sein d'une fiction, au sein même de la réalité. C'est ça que moi j'aime bien avec ce truc-là, c'est que du coup, les réactions que ton personnage a, bah, c'est toi qui les crées. parce que c'est toi, en fait, l'acteur, tout simplement. Et moi, du coup, j'aime beaucoup ce truc-là de Sam Barlow. Enfin, compte, c'est aussi une mise en abîme du truc. Il avait un peu fait ça avec Telling Lies, où est-ce que tu pouvais éteindre le moteur de recherche. Enfin, compte, il y avait un reflet dans l'écran qui reflétait pas l'environnement du joueur, hein, mais qui reflétait un environnement prévu par le jeu, quoi. Et je trouve qu'avec Immortality, il était encore plus loin là-dedans, dans le fait que le joueur doit s'investir presque comme dans un ARG, pas de la même manière, mais on est un peu à cheval sur ce que pourrait faire le VR, en fait, sur le principe.
C'est intéressant ce que tu dis sur la mise en abîme, et je pense que c'est clairement voulu, parce que on a abordé vite fait les personnages de The One et The Other One, et c'est vrai que t'as certains passages dans le jeu où il s'adresse à toi. Tu es le monteur, tu n'incarnes pas le monteur qui est en train de fouiller, c'est toi, tu es le monteur. Et c'est vrai que moi, il y a un moment qui m'a particulièrement dérangé, c'est... il y a une séquence où tu joues avec plusieurs couches de réalité, en fait. Et au bout d'un moment, The One se met à fixer la caméra, mais c'est filmé d'une manière que c'est toi qui es fixé. Elle m'a fixé dans les yeux, et elle m'a profondément perturbé jusqu'au moment où elle a eu ce petit sourire en coin et qu'elle me dit « je te vois ». Et ça, c'est quelque chose qui... c'est tellement accentué, c'est tellement bien fait de ce côté-là, que c'est clairement volontaire de faire en sorte que tous les joueurs incarnent le monteur, en fait.
J'avoue que du coup, Axel, toi, tu dois avoir une relation même presque privilégiée avec le jeu, dans le sens où tu es monteur, parce que c'est vrai qu'au clavier souris, ça doit vraiment rappeler en fait ce que tu peux faire. Mais ouais, effectivement, comme le dit Brian, c'est une scène très perturbante, la scène où The One te parle. Moi, c'est une des scènes, pour le coup, qui m'a vraiment marqué. Et je pense que même si le jeu au global ne me marquera pas forcément, ça, je m'en souviendrai, parce que c'était plutôt bien, quoi. Ça a plutôt bien marché au moment où c'est arrivé, on va dire.
Et on passait sur la partie d'après, moi, il y avait vraiment un truc sur la narration aussi qui... Bah, sur cette jonction entre jeux vidéo et cinéma que je trouvais assez impressionnante une fois qu'on y réfléchit. C'est tout le level design, en fait, du jeu, pour le coup. C'est permis, du coup, avec la mécanique de rembobinage, d'avancer, de reculer. Où au final, bah on disait on est sur un point and click, à quelque chose près, hein, pour le coup, où il y a pas mal de séquences, pour le coup, où des fois on va être sur des plans fixes, hein, pour le coup, bah, toutes les parties de répétition, toutes les parties un petit peu de... toutes les interviews, c'est un plan qui ne bouge pas, ou à la limite, c'est un verre qui va apparaître si la personne le prend pour le boire. Toutes les scènes, par contre, qui sont dans le film, ou certaines répétitions en mouvement, notamment dans Minsky, il y en a plusieurs. Là, on est vraiment sur un truc où on voit le niveau qui bouge, pour le coup. Il bouge dans les appartements, il bouge autour d'eux, il sort d'une voiture, on voit les paysages défiler. Donc, mine de rien, t'as quand même un espèce de level design qui se développe. Une fois que t'as vu la pellicule en entière, tu peux revenir en arrière pour cliquer sur des éléments qui étaient là à tel moment, mais qui vont disparaître après, en dehors de voir des scènes cachées ou quoi. Ils ont quand même réussi à développer ça d'une telle manière que c'est des films, on est sur des films, hein, pour le coup, mais t'as quand même des notions de level design qui sont mises en place. J'imagine pas la complexité de la chose derrière pour voilà, se dire à tel moment il faut qu'il y ait ça qui apparaisse. Mais c'est qu'ils arrivent quand même, je pense, à insuffler le côté jeu vidéo dans le côté cinéma par ce biais-là, pour le coup.
En fait, ils jouent avec notre cerveau, il y a un côté gymnastique mental, parce qu'il y a forcément un moment dans le jeu où tu vas tourner en boucle sur certaines pellicules. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Et ça devient intéressant d'essayer de reconstituer. Genre, j'ai vu ça, mais il y a 30 minutes, j'ai également vu cette séquence qui a l'air de se raccorder plus ou moins à ce qui se passe maintenant. Et ça, il y a clairement, oui, il y a une notion de level design parce que t'es forcé de t'approprier les espaces, les lieux, les acteurs. Et ça appuie assez bien ce que tu viens de dire.
Mais vous parlez de level design, moi, ça me rappelle un peu, du coup, les jeux avec caméra fixe, on va dire. En tout cas, la caméra plutôt à la main du développeur. Maintenant, on joue beaucoup à des jeux en 3D à la troisième personne où on contrôle la caméra. C'est vrai que ça rappelle un peu ce côté. Du coup, ouais, finalement, c'est de la mise en scène. Il y avait au moment où le jeu vidéo a commencé, au moment où les jeux en 3D ont commencé à apparaître, il y a eu cette notion de caméra fixe, un peu comme un monteur, enfin un peu comme un film au final.
Comme Silent Hill, tu veux dire? Silent Hill 1
ou Resident Evil.
C'était une caméra fixe, Silent Hill 1
Tu pouvais pas trop la bouger, mais il y avait des mouvements de caméra assez fous, notamment la parfois quand tu rentres dans le monde des ténèbres avec Harry.
Là où c'est vrai que du coup avec le développement du coup de la technologie, on est plus passé sur des caméras libres, et finalement avec ce Immortality, on revient un peu en arrière vu que c'est des films en fait, et c'est assez intéressant parce que du coup T'as un vrai enjeu, du coup, à repérer les moments, les objets intéressants, les moments intéressants, enfin, toi, en tout cas, ce qui va te parler, aller au bout de la séquence, rembobiner en arrière pour aller à l'endroit où tu veux exactement, etc. Et cliquer vraiment sur les endroits que t'as identifiés comme des trucs importants. Parfois, j'avais aussi un peu ce côté où j'avais vu plusieurs choses dans une séquence. Du coup, j'allais sur la séquence suivante, je la regardais, je revenais en arrière, j'allais recliquer sur l'autre truc qui m'avait interpellé. Ça aussi, en termes de mécanique, je sais pas si beaucoup de gens l'ont fait ou les gens, globalement, avaient tendance à rester dans le flow d'enchaîner les séquences. Mais c'est vrai que, pareil, ça, c'est un truc... au début, j'avais un peu du mal avec les touches, on va dire. Je m'embrouillais un peu, mais quand j'ai bien réussi à capter comment retourner sur la précédente, sur la séquence d'avant, etc., et quelle était la séquence.
Je pense qu'il y a une navigation qui se fait aussi par rapport à ça à un moment. C'est autant on disait des fois, on le faisait par rapport à des objets, des regards, ou même des personnages. Bah, par exemple, toi, Stéphane, t'avais voulu faire avec les acteurs, les actrices à différents moments. On le fait aussi, je trouve, par rapport aux thèmes qu'on voit dans le jeu, pour le coup. Ou par moment, bah, ce qu'on disait, par exemple, tous les thèmes religieux, tous les symboles religieux, ça va souvent nous renvoyer à Ambrosio et bah, tout ce qui tourne autour de la religion, de la pomme, de serpent, etc. On va très vite aussi tourner autour de thèmes qui ont rapport à la femme, de thèmes qui ont rapport à la sexualité, et surtout aux abus de pouvoir des hommes, aux abus de pouvoir, aux abus sexuels que l'actrice a subi, et que The One a subi aussi, du coup, tout au long du truc. Et c'est un petit peu le troisième thème qu'on voulait aborder. Je trouve que c'est plus compliqué parce qu'on... Le troisième thème, c'est tout ce qui est la place de la femme dans le cinéma, dans l'entertainment et le côté féministe du jeu. Je dis compliqué parce que on voit que dans le jeu, en fait, Sam Barlow et toute son équipe, ils ont voulu montrer un petit peu ce que c'est d'être une femme dans le monde du cinéma, en tout cas à travers différentes époques. On le voit bien dans le documentaire de nos clips, par exemple la toute première scène, la scène d'interview dont on parle depuis le début, c'est du copier-coller d'une interview d'un late show, pour le coup, avec cette même malaisance, ces mêmes questions libidineuses d'un... J'ai plus le nom du présentateur, mais qui a ses 50 ans bien tapé face à une adolescente, hein, en soi, pour le coup, avec ce côté bien insistant, « Ah, t'as 16 ans, t'as 17 ans, c'est jeune au possible. » Ah, c'est ça.
Vous vous souvenez de quelle interview c'est tiré, enfin de quelle interview réelle c'est tiré?
Dans le Noclip, on peut le voir, faudrait que je retrouve. On mettra le lien de toute façon du documentaire Noclip dans la description, et du Letterboxd aussi que tu mentionnais, Brian, comme ça, pour au moins que vous ayez toutes les pistes, que vous ayez vos sources.
C'est là où est-ce qu'on voit que Sam Barlow est amoureux du cinéma, pas simplement dans la fabrication, mais aussi des figures du cinéma. Parce que par exemple, quand on voit Arthur Fleischer, c'est Hitchcock, ni plus ni moins que Hitchcock, même s'il a le nom de Richard Fleischer et tout ça, mais c'est Hitchcock. Jusqu'au principe même de... C'est un personnage qui est sympathique quand on le voit, mais ce mec-là, par contre, derrière, c'est un gros dégueulasse. Comme Hitchcock, en fait. C'est littéralement Hitchcock avec un autre nom. Et c'est là où est-ce qu'on voit qu'il s'intéresse aussi aux figures du cinéma. Que c'est vraiment un amoureux du cinéma de manière globale, en fait. Sam Barlow.
Bah de comment c'est fait, c'est ça. Il va y avoir, je pense, qu'une des autres scènes aussi qui est vraiment tirée d'une histoire vraie, bah c'est tout le truc sur Two Way Everything, le côté faire un concert pour un ultra-riche. À la base, ça vient d'un concert de Jennifer Lopez, qui, je crois que c'était pour un oligarque russe, mais...
Ouais, c'était ça, c'était un truc pour un oligarque russe, ouais.
C'est ça, payé, 10 millions. Je sais pas combien de millions, pour venir dire joyeux anniversaire sur un concert privé. T'as ce côté vraiment où il veut mettre en scène, du coup, l'exploitation, la représentation de la femme dans le cinéma et l'entertainment, pour le coup, Jennifer Lopez, on est vraiment sur du concert. Et ça, du coup, il le fait bien, entre guillemets, de montrer ce qui se passe dans la vraie... des événements réels, de les transposer. Après, il y a un côté où, pour le coup, il va vouloir, du coup, montrer ça, et notamment avec The One et The Other One. Tu vas voir le côté, avec certaines scènes, où c'est elles qui reprennent le pouvoir pour inverser cette tendance-là. Notamment avec certains réalisateurs, les scènes cachées, justement, c'est de renverser le truc, et c'est The One qui prend le pouvoir un petit peu sur le réalisateur. Mais on va avoir quand même pas mal de scènes avec Marissa Marcel, où on est placé... Bah, non pas du coup en... Comment ça s'appelle ? De son point de vue à elle, du côté un petit peu de la victime, mais on est placé du point de vue du réalisateur qui regarde du coup aussi Marissa Marcel qui est à poil en train de se faire abuser. Donc, est-ce que t'es un petit peu maladroit ? Tu sens qu'il y a une volonté de faire un truc, quoi, pour le coup, mais je trouve qu'il y a un côté un petit peu maladroit quand même là-dedans.
Alors, il y a un côté maladroit, clairement. Toute la partie premier degré, c'est-à-dire cinéma pur, je dirais que c'est parfois assez bien fait parce que il y a l'accent qui est mis sur Marissa, le fait que dans les trois films elle est exploitée un peu plus ou moins comme un bout de viande. Dans le premier, elle incarne la tentation sous une fausse apparence de pureté. Dans le deuxième, on est dans le classique femme fatale à la Sharon Stone, etc. Le troisième, pareil, on est sur une pop star qui est un peu souvent dénudée, la peau à l'air. Oui, il y a l'amour du cinéma avec, par exemple, il y a pas mal de références à ce que, par exemple, Stanley Kubrick, pardon, a pu faire subir à Shailene Duvall. C'est pour ça que c'est très intéressant les parties making-of dans le jeu, parce qu'il y a pas mal de séquences où on voit que les réalisateurs sont un peu des saloperies. Et sont prêts à pousser à bout. Il y a pas mal de propos ordurieux, même parmi les acteurs. Là où ça me gêne, c'est la partie paranormale, où j'éterrai un peu après, mais la partie, le discours féministe, quand on rentre dans la globalité du jeu avec The One et The Other One, je trouve qu'il se vautre totalement, et c'en est vraiment très maladroit et gênant.
Alors moi, je vais mettre un peu de nuance là-dedans, j'avoue. Parce que on sent que le jeu est fait par un homme sur des thématiques féministes sur lesquelles il n'a pas vraiment beaucoup réfléchi en fait sur certains trucs parce que oui on sait que l'industrie du cinéma elle n'est pas spécialement très féministe et c'est un euphémiste etc mais il y a quand même un enchaînement de clichés sur la femme, que ce soit dans le côté paranormal ou dans le côté pas paranormal, qui fait que en fait il n'y a pas de réflexion féministe derrière le pas de réflexion réellement féministe derrière, en fait. On est vraiment dans un enchaînement de clichés et dans un... Oui, on va quand même montrer ça et ça, parce que comme ça, on pourra pas dire qu'on est sexiste, mais à un moment, la réflexion, elle est assez minime derrière, pour pas dire extrêmement conventionnelle, et on sent que ça a été fait par un homme, et qu'au niveau de l'équipe technique, il n'y a pas eu beaucoup d'hommes, à mon avis, beaucoup de femmes, je veux dire. Et on est vraiment sur un jeu qui, pour montrer qu'il y a des abus, est obligé de montrer une scène de viol. Merci, mais non merci. Enfin, à un moment donné, on faudrait qu'on arrête de définir les personnages féminins uniquement parce qu'elles se font violer, maltraiter, etc. Ce serait bien, justement, d'aller plus loin dans le propos. Et justement, si tu veux faire un truc féministe, faut pas montrer ça en disant « Ouh, c'est pas bien, on n'a pas besoin de ça, en fait. » C'est bon, ça fait des années que c'est comme ça, ça fait des années que c'est... Donc pour moi, il n'y a pas de propos féministe dans Immortality, et il n'y a pas de réflexion féministe derrière, et s'il y en a une, elle est au mieux ultra machiste, et au pire, extrêmement maladroite.
C'est pour ça que... Vas-y, Axel.
C'est pour ça que moi, je disais que c'était un jeu qui n'avait pas forcément proposé... pendant qu'on faisait la réunion, on parlait du jeu, parce que j'ai plutôt dit que c'était un jeu qui pouvait parler de la place de la femme dans l'entertainment, sans être forcément féministe, en fait. Mais pour revenir à ce qu'a dit Brian, c'est que Kubrick, pour le coup, il s'en prenait pas qu'aux femmes, aux hommes aussi, parce que ce compositeur pour 2001 des espaces qui a fini sur un brancard dans la chambre d'hôtel, ça c'était quand même bien joué de sa part.
Je suis pas persuadé qu'il aurait osé faire ce qu'il a fait à Shelley Duvall à Jack Kubrick. Nicholson, tu vois.
Kubrick était une ordure de la pire espèce. Et pour revenir aussi sur le fait que des fois le jeu est sans concession, je pense que faudrait que je lise la liste des films qui ont inspiré Immortality, mais je pense qu'il s'inspirait de Final Cut avec Robin Williams, ou est-ce que c'est un film, ou est-ce qu'on peut extraire la mémoire des morts pour en faire un film souvenir. Et je pense qu'il a essayé de reprendre ce principe-là, sauf que des fois, en fait, c'est le problème, c'est que des fois qu'on a une idée, qu'on veut dire « je fais sans concession », le problème c'est que des fois, on loupe son propos. Quand on décide d'être sans concession, et je pense que c'est là où est-ce que Sam Barlow a un peu perdu pied, je pense, dans un propos qu'il a voulu aborder.
Oui, et puis même pour rebondir sur ce qu'a dit Bénédicte, sur le fait que ça se voit que c'est écrit par un homme, c'est pour revenir sur The One et The Other One, dans un... Tu vois qu'il essaye de raconter des choses, et là où j'ai été navré, c'est qu'on te sort deux personnages, immortels, divins, vampires, on peut les qualifier comme on veut, peu importe, qui sont censés, enfin après c'est ma vision, mais j'estime que quand t'as des milliers d'années d'existence, t'as un peu une forme de sagesse, et voir le personnage divin féminin, donc The One, être ramené à la fin du jeu au final à un être irrationnel qui est juste jaloux et qui pète un câble à la fin.
C'est une femme.
Voilà quoi.
Hein ? Ah oui, non mais c'est ça. Parce que au final, si tu veux pousser la réflexion plus loin, tu pars du principe qu'un être divin et immortel est complètement au-delà de tout ça et potentiellement au-delà du genre aussi, accessoirement. Ce qui n'est pas le cas ici. Et que techniquement, si tu prends les croyances d'un peu partout, pour certains, Dieu est un homme, pour certains, Dieu est une femme, pour certains, Dieu est un être immatériel qui est les deux ou aucun des deux. Donc si tu veux pousser ta réflexion sur le divin, tu prends pas un archétype d'homme et de femme avec une femme qui tape une crise d'hystérie à la fin. Parce que ton propos, c'est de la merde derrière. en termes de féminisme et en termes de genre.
Il y a peut-être un côté, enfin, il y a sans aucun doute, parce que je te fais totalement confiance, un côté très maladroit, Bénédicte. Ceci dit, moi, je reprends, enfin, pour reprendre un peu ce qu'a dit Brian au tout début, je trouve quand même que c'est pas intéressant de reprendre un peu ce qui se passe dans le cinéma, dans le sens où, autant nous, peut-être qu'on est des passionnés de cinéma, donc on sait ce qui se passe, et puis il y a eu des affaires très médiatiques, hein, évidemment.
On en a deux belles en France. Enfin, hein.
Oui, oui, mais là, je pensais à Kevin Spacey. Mais bref, il y en a plein.
Mais tout.
Et c'est vrai que. Oui, oui. Mais c'est vrai que moi, globalement, j'ai quand même trouvé que sur certaines scènes. Alors, par exemple, vous parliez de la scène du viol. Je ne l'ai pas vue pour le coup. Donc, je suis passé à côté. Donc, j'ai peut-être pas le même rapport parce que j'ai peut-être pas vu toutes les séquences non plus. Mais c'est vrai que moi, ça m'a moins dérangé. Et pareil, cette crise d'hystérie à la fin. J'ai pas eu cette scène non plus, je suis désolé, mais j'ai vraiment loupé beaucoup de scènes, je crois. Donc, moi, je pense que l'histoire, je dois être celui qui a rien compris parce qu'il est passé à côté de trois quarts des scènes paranormales déjà.
Stéphane, il a fait un focus sur le feu, il est arrivé au bûcher à la fin, générique, c'est bon, l'affaire est dans le sac, je suis prêt pour le podcast.
Ah, cramé, c'est bon.
Et c'était un peu ça, je pensais qu'il me restait encore longtemps à jouer et paf, ça s'est arrêté. Enfin bref, du coup, je le trouve pas inintéressant par moment sur certaines scènes. Mais c'est vrai que du coup, par rapport à tout ce que vous avez raconté, et qu'en plus je suis en partie passé à côté parce que j'ai pas vu du tout les scènes, je comprends aussi ce côté maladroit. Et que du coup, c'est peut-être un film, comme je sais plus lequel d'entre vous le disait, qui va représenter, bah c'est peut-être Axel, qui va montrer, on va dire, qui va exposer, sans avoir le discours qui va avec. Et c'est vrai que c'est peut-être ça, au final, le plus gros problème, parce que l'idée de vouloir aborder cette thématique, elle est intéressante sur le papier. Mais comme le disait Bénédicte, si à minima, même si t'es un homme qui écrit, t'as pas des femmes avec toi pour apporter ce point de vue-là, ce qui est fondamental sur ces sujets-là, bah tu peux pas, pour moi, à moins que tu sois... Ouais, non, même pas, tu peux pas pleinement saisir, en fait, la thématique.
Bah, c'est ça, et t'as le côté... Alors, oui, okay, on est des personnes éclairées qui s'intéressent au cinéma et qui sommes peut-être potentiellement plus au courant que certains autres, etc., sur les différentes thématiques et sur le rapport à la femme dans le cinéma. Mais le jeu n'est pas accessible à tout le monde, en fait. À partir du moment où le jeu n'est pas accessible à tout le monde et qui s'adresse déjà de base à des fans de cinéma, ton propos n'a pas à être superficiel. Parce que tu t'adresses déjà à un public qui potentiellement sait déjà autant, voire si ce n'est plus de choses que toi sur le cinéma. Et à partir du moment où tu t'adresses à ce public-là, tu peux te permettre de ne pas faire généraliste. Tu peux te permettre de ne pas enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes, en fait, depuis un moment.
Je nuancerais peut-être le côté inaccessible, dans le sens où ça reste quand même une production qui est disponible à peu près partout, notamment sur des plateformes comme Netflix, qui peut permettre... tu vois, la curiosité des gens va peut-être les pousser à aller tester.
Mais
donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont... Enfin, tu vois, le public Netflix, c'est pas le public le plus passionné forcément de cinéma, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé aussi par curiosité.
Oui. Je te rejoins, mais en fait, quand je dis que c'est pas accessible à tous, c'est très simple, c'est que le public Netflix ou le public machin ou ceux qui sont pas intéressés par le cinéma, ils vont jouer une heure, ils vont voir quatre séquences et ils vont arrêter.
Oui, peut-être qu'Ambrogio, c'est pas le truc qui va le plus leur parler, effectivement.
Le jeu n'est pas accessible au plus grand nombre, ouais, en fait. Sûr. C'est pas parce qu'il est sur Netflix qu'il est accessible au plus grand nombre. T'as des, voilà, c'est d'ailleurs la force du truc.
Même sur Netflix, pour nuancer le truc, t'as... Attends, je crois que c'est... moins de 7% des abonnés qui vont jouer à des jeux. Tout court.
Oui, parce qu'il y a moins de 7% des abonnés qui sont au courant qu'ils ont accès à des jeux.
C'est déjà, ça, oui. On parle des jeux globaux. Donc sur ces 7%-là, il y en a combien qui vont cliquer sur Immortality ? Sur ceux-là, il y en a combien ?
Et puis, c'est pas une plateforme de jeux vidéo. Mais je voulais apporter un petit point de nuance. C'est vrai que c'est peut-être pas le plus pertinent, mais voilà.
Après, c'est pas une question de pertinence. C'est qu'il y a des gens qui vont pas connaître et qui vont pouvoir se lancer dessus, qui vont accrocher, qui vont découvrir des trucs. Mais je pense que c'est une infime minorité parce que le jeu, par son principe même, par son gameplay, par son esthétique, par son principe, et je l'ai dit deux fois, n'est pas accessible au plus grand nombre.
C'est ça, parce que le jeu était sur Game Pass. Je sais pas s'il a été sur PS Plus, mais je sais qu'il a sorti
sur Game Pass. Il est même pas sur PS, sur PlayStation encore.
D'accord. Ah, ok. Bah bon, il est plus sur Game Pass, mais en même temps, c'est aussi sur le nombre de personnes qui sont sur Game Pass, combien jouent au Game Pass de manière, on va dire, vidéo club, ou est-ce qu'ils vont se dire, bon, bah, j'ai un abonnement, je vais pouvoir tester des jeux que je testerai pas d'habitude. Il suffit juste d'avoir les commentaires. Alors, je sais que c'est peut-être pas généralisé, je vais pas généraliser, mais quand j'ai les commentaires, quand les mecs, ils annoncent des jeux Game Pass, où tu vois, ils ont des pépites genre Cocoon. Les mecs, ils font « Oh, il n'y a rien ce mois-ci sur Game Pass !»
Mais, non, mais gars, même sans aller jusque-là, tu prends la presse juste en France, il y a une seule critique, un seul test sur Immortality. C'est jeuxvideo.com. Il n'y en a pas eu d'autres.
Mais c'est vrai qu'il y a le truc. Pardon.
Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis, Brian, c'est pas faux, dans le sens où moi, une fois que j'avais fait le jeu, j'avais envie de même si ça m'avait pas trop parlé, mais j'étais curieux d'avoir l'avis d'autres personnes. J'ai essayé de trouver des critiques et tout, et c'est vrai que j'ai trouvé finalement très peu de contenu par rapport à d'autres jeux, alors que je m'attendais
ouais, justement sur du contenu anglophone, ouais, pour le coup.
Voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de choses dites sur le jeu, parce que justement, ça, tu vois, ça peut parler aux fans de cinéma, ça peut parler aux fans de jeux vidéo, c'est un peu au carrefour des deux médiums. Donc je trouvais qu'il y avait, enfin moi je pensais vraiment que beaucoup de gens pourraient y jouer et donner leur avis, et finalement j'ai pas trop retrouvé ça. Mais c'est une petite aparté.
Je pense principalement parce que aussi les deux premières heures de jeu ou la première heure de jeu selon ce sur quoi tu cliques, bah il y en a beaucoup, ils ont abandonné après ça, hein, parce qu'ils sont jamais tombés sur The One et The Other One. Parce qu'ils ont pas forcément, c'est pas forcément des films qui leur parlent, parce qu'ils sont tombés sur une ou deux scènes qui les a dégoûtés, ils ont envie de partir, enfin...
Moi je sais que j'avais eu cette expérience-là avec ma compagne, j'avais commencé le jeu avec elle qui est pas adepte de jeu mais qui aime le cinéma, et pour le coup on était là-dessus où c'était... Moi j'ai eu le côté à être happé vite et de me faire... Je crois que j'avais fait une séance de 2 heures la première fois parce que j'aimais bien le côté tu cliques partout, il se passe des trucs... Elle était en dehors complètement de la proposition, pour le coup. Elle disait, je me retrouve pas dans le côté cinéma, et on avait pas mal bloqué sur Ambrosio. Donc elle était sur le côté, c'est franchement mal joué, quoi, en plus, ton truc, donc bon, bah au revoir. Donc il y avait le truc où ça, je pense que ça dépend de ta... Même pas de ta sensibilité, pour le coup, mais sur quelle séquence tu tombes, dans quel mood tu trouves. Ah, y a un petit peu tout ça, quoi.
Ah ouais, bah surtout que toi, Stéphane, toi qui connais pas trop le cinéma de cette époque-là avec Ambrosio, ou est-ce que t'es presque obligé de commencer par ça, j'ai l'impression. Franchement, si tu devais pas le faire pour le PDV ou qu'on t'avait pas poussé, est-ce que t'aurais continué, tu vois?
Alors, oui, parce que je suis un complétionniste. Alors, moins qu'avant, c'est-à-dire que j'ai pas fait toutes les séquences du jeu, j'ai pas cherché toutes les séquences du jeu, mais en tant que bon complétionniste, j'aurais au moins fini le jeu, parce que par principe, je finis tous mes jeux pour me dire que j'ai peut-être pas aimé, mais au moins je suis allé au bout de l'expérience et j'ai vu ce que c'était. Voilà, c'est une règle de base que j'ai moi quand je joue à un jeu. Peut-être qu'en vieillissant, quand j'aurai moins de temps, je me permettrai d'abandonner les jeux qui ne me plaisent pas. Pour l'instant, j'y arrive pas encore. Psychologiquement, j'ai une barrière qui me dit « tu dois finir ton jeu », particulièrement quand tu le payes le prix que j'ai payé Immortality. Surtout pour y avoir joué 6-7 heures. Voilà, c'est tout. Mais non, effectivement, du coup, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire la première heure, elle a été compliquée parce qu'Ambrosio, c'était un film qui me plaisait pas. En fait, déjà, rien que les premières séquences, au final, parce que moi, j'étais sur Ambrosio au début. Et en plus, il y en avait beaucoup. Enfin, je retombais souvent sur Ambrosio et ça m'a un peu gonflé au début. Donc, je pense que, tu vois, par exemple, sur Netflix, c'est sûr et certain que si j'avais pas payé le jeu et que je l'avais lancé sur Netflix et que j'avais pas eu le point de vue à faire, j'aurais abandonné au bout de 30-40 minutes.
On va voir à quel point on tombe souvent sur Ambrosio, parce que je sais qu'il y a toute une mécanique derrière qui fait qu'on doit cliquer sur un certain nombre de séquences, par exemple, avant d'avoir les premières séquences cachées. Bon, bah, mathématiquement, il y a plus de séquences d'Ambrosio que tout le reste, donc en soi, il doit y avoir ça.
Oui, mathématiquement.
Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a peut-être un côté où au début, ils incitent plus à explorer l'Ambrosio pour garder un semblant de forme chronologique et pas trop nous envoyer que sur... Of Everything, bah, ça serait couillon de tomber directement sur la scène où elle se fait cramer à la fin.
Ça dépend aussi sur quel... Ça dépend aussi sur quoi tu cliques. Si on reprend mon exemple où moi je clique sur la valise, autant te dire qu'il n'y en a pas dans Ambrosio, quoi.
Ouais, c'est ça.
Petite anecdote, je suis tombé sur la scène de la chaise qui brûle, là, sans comprendre ce que c'était. Mais relativement tôt, hein, peut-être au bout d'un tiers du jeu, alors j'ai pas eu le générique ou quoi que ce soit, mais très vite je suis tombé sur cette scène. Hein.
Donc, mais pourquoi elle brûle là, madame?
Ouais, non, mais c'est ça, je vois un truc brûler, je me dis, alors ça, c'est dans le film, du coup? Je vois la scène, je me dis, bah, ça a pas l'air d'être dans le film, quand même, ça a l'air de vraiment brûler. Et ouais, du coup, c'est vrai que cette scène, on peut tomber dessus très tôt, et du coup, c'est ce moment-là, en fait, où j'ai eu un peu ce côté un peu plus zappé à me dire, c'est vraiment bizarre, cette scène avec la chaise qui brûle. Il va falloir fouiller pour trouver ce qui s'est passé juste avant, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis ce qui va marquer la fin du jeu un petit peu, bah, c'est ce monologue final, là, un petit peu, bah, on en parlait, on a The Other One qui parle à la caméra, là, pour le coup. Et ça va nous faire la transition avec la dernière partie, tout le côté autour de l'art et du pouvoir de la création. Le message final un petit peu du jeu, au final, ça va être ça. Avec du coup, The Other One qui arrive et qui parle, et qui va dire en final qu'elle maintenant elle est immortelle, parce qu'elle vit à travers les pellicules, comme n'importe quel film, pour le coup. Donc il y a vraiment ce message-là, c'est dans le titre du jeu, tout simplement, Immortality. Il y a vraiment tout ce côté-là où j'ai l'impression que c'est un thème que le jeu arrive mieux à faire sur plusieurs aspects, à aborder ce côté un petit peu à... Parce que t'es un petit peu magique de la création. On voit, encore une fois, dans le documentaire de Noclip, l'actrice qui joue la... qui joue The One, juste pour avoir son nom, Carlotta Molin, justement pour avoir toutes ces séquences où elle est... Bah, elle est toute seule, pour le coup, elle a pas mal de séquences en monologue, où elle a pas mal de séquences où elle doit danser seule, par exemple, où elle a pas mal de séquences en solitaire. Elle s'est pas mal inspirée de... notamment de monologues, de, pas de monologues, de discours de David Bowie sur la création. Sur un petit peu bah, comment lui prenait ses sources d'inspiration, comment lui ressentait de la magie quand il créait, quand il faisait ses chansons, pour pouvoir arriver à ses speeches. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu bah, ces inspirations-là. Je pense notamment même au bah, tout le côté surréaliste du jeu qui se dégage. T'as tout le côté presque magique au final avec ces deux-là. The One is the Other One, c'est vraiment des vampires qui se nourrissent des humains, qui prennent leur place pour pouvoir avancer dans le temps. Avec notamment The One qui a vraiment toute une comment ça s'appelle tout un amour pour les êtres humains, pour le sexe, pour l'art, pour tout ça. C'est presque des trucs qu'on trouve dans la notion de création d'Alan Moore, dans la façon dont il a d'appréhender la magie, en dehors de son dieu Glicon, comme il l'appelle. Il y a vraiment tout ce truc de la création par la magie, pour le coup. Pour lui, ne serait-ce que de créer des œuvres, d'écrire, de faire des dessins, c'est ça, c'est de la magie. Et ça, ils ont bien réussi, je trouve, à le faire dans le jeu, à faire passer ce truc-là, à faire passer cette forme d'immortalité.
Ouais.
On s'y retrouve pas mal. Et t'as vraiment ce côté-là, même avec les trois films, au final, maudits, qui sont jamais sortis. On en parlait en off, mais ça presque les rappelle avec le Dune de Jodorowsky. T'as trois films au final, les films maudits, les films qui ne sortent jamais. T'as toujours cette aura autour d'eux qui te dit, ouais, mais s'il était sorti, est-ce que Ambrosio serait pas été le meilleur film sur les religieuses à être sorti? Est-ce que Minx serait pas été le meilleur film de flic? Je ne pense pas. Mais t'as un petit peu ce que là pour le coup sur la création qui est assez balèze dans le jeu.
Ouais, mais il y a ça, et puis le fait d'utiliser du coup le médium qui est le cinéma pour développer cette thématique de la création et du côté immortel qui peut se dégager de l'art, c'est assez bien foutu, dans le sens où c'est vrai que réfléchir sur le sujet, ça m'a fait penser à une scène dans Babylone qui est sortie cette année, que je trouvais assez touchante, vers la fin, où le personnage de Brad Pitt, voilà, il est un peu au bout du rouleau, et que la critique de cinéma lui dit que grosso modo, faut qu'il se rende compte de la chance qu'il a eue de faire ce métier, même si la gloire et les paillettes, ça a duré que quelques années, parce qu'à chaque fois que quelqu'un relancera une pellicule d'un de ses films, que ce soit dans 10 ans, 50 ou 100 ans, ben, il reviendra à la vie ces quelques minutes, en fait.
C'était Jodorowsky, je crois, qui disait... Bon, il est ce qu'il est, mais ça, c'était une phrase que je trouvais très juste, où est-ce qu'il expliquait que... la seule moyen de compléter son âme, c'était de créer. C'est l'art de créer, en fin de compte, ça complète ton âme. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase-là du Dorosky.
Après, c'est des idées qui sont pas nouvelles non plus. On n'a pas attendu le cinéma pour ça, quoi. Parce que bon, c'est des idées qu'on a déjà vues se développer dans la philosophie depuis Platon, Aristote et compagnie, à savoir l'immortalité à travers la réalisation d'œuvres, que ce soit de peinture, de sculpture, d'architecture même à l'époque, etc. Donc ça a même donné naissance à plusieurs religions, puisque dans certaines franges de la chrétienté, Dieu ne peut pas être représenté, puisque il est immortel et qu'il n'a pas le droit à des représentations. Dans certaines autres religions, c'est l'inverse. Plus tu représentes une personne, plus elle est immortelle. Dans l'Antiquité égyptienne, les noms des différents pharaons étaient écrits dans les différentes pyramides, et les gommer, c'était gommer leur immortalité et les empêcher de vivre et de survivre à travers les différentes strates de l'au-delà, etc. Donc c'est pas du tout une idée neuve, en vrai. Ok, c'est intéressant via le prisme du cinéma, etc. Mais c'est une idée philosophique, religieuse, etc., qui existe depuis presque 5000 ans, quoi. voire plus.
La porte, j'ai l'impression, c'est que c'est... je sais pas s'il le fait à ce point-là, mais ça se rapproche un peu de ce que, bah, pas comme tellement, il développe dans certains livres, et dans notamment une vidéo qu'il avait fait sur Blast pour autour de Mulholland Drive. C'est que t'as le côté, du coup, de l'immortalité à travers les acteurs, qui crée presque, du coup, cette espèce de religion autour des acteurs d'Hollywood, pour le coup. Donc c'est, encore une fois, la notion n'est pas nouvelle ni rien, mais t'as ce côté, pour le coup, ça, t'as l'impression qu'avec le discours du jeu, et même le discours d'Hollywood en général, ça va être d'iconiser ces acteurs, mais vraiment au point d'en créer des icônes religieuses. Marilyn Monroe, ça serait l'exemple principal, enfin, l'exemple majeur, etc. Là, le jeu nous fait un petit peu passer ce côté-là.
Oui, on parle de monstre sacré du cinéma, par exemple. Souvent, c'est une expression qui
revient. Ouais, c'est ça. On parlait des Hitchcock, des Kubrick. T'as ce côté, pour le coup, pas de les déifier, pour le coup, mais c'est pas loin, pour le coup. Dans le 7e art, ce sont les icônes. On utilise, au final, les mêmes mots qu'on va retrouver dans le discours religieux.
Ah bah, bien sûr. En fait, c'est juste de voir là ce qui se passe actuellement avec Depardieu. Hein, donc, on est décembre 2023. Donc, si vous voulez voir ce qui se passe, mais où est-ce qu'on explique que bah, ce mec-là, ça fait depuis quelques temps qu'on sait que c'est une ordure et faut voir comment on se fait incendier. Hein. Ouais, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Lui, il a apporté tout au cinéma français. Lui, c'est la culture. Il représente la France et il est intouchable, le mec. Hein,
de toute manière, on le voit dans notre société actuelle. Aujourd'hui, ça a été décupé par les réseaux, mais. Les stars, c'est des trucs que tu dois.
Bah, disons qu'on leur passe tout. C'est vrai que moi, par exemple, malheureusement, du coup, je ne sais pas, un grand fan de la filmographie de Depardieu. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, en tout cas, même à la télé, hein, désolé, j'adore Cyrano de Bergerac, mais sur les réseaux sociaux, à la télé, le nombre de fois que j'ai lu, entendu, c'est Gérard, c'est pas méchant quand ça vient de Gérard.
Non, ça, et je pense, et le mot star, pour le coup, il est intéressant, parce qu'on a l'habitude d'utiliser ça, mais c'est de l'anglicisme, pour le coup. On retombe vraiment sur le côté, c'est les étoiles du truc, on est même plus sur un terme où c'est... on est vraiment sur ce côté, on les déifie, pour le coup. D'une certaine forme, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas faire tomber une étoile, tu vois, c'est vraiment ça, pour le coup, dans l'image.
Oui, bah Hollywood Boulevard, tiens, c'est...
Il y a un petit peu ça qui est apporté par
Ouais.
Vas-y.
Ouais, mais sans dire que c'est original, moi c'est quelque chose qui m'a parlé parce que j'ai eu ce côté-là, plutôt dans le sport, moi, là où j'étais un grand fan de football et puis plus tard de tout ce qui est compétition automobile et tout. Et c'est vrai que moi j'ai un peu ce côté presque un culte, entre guillemets, hein, à des pilotes célèbres de Formule 1 comme Ayrton Senna qui est mort sur la piste. Et du coup, ce côté légendaire, il me reste légendaire alors que j'étais pas né à l'époque où il pilotait parce que ce pilote, Ayrton Senna, parce que. C'était le pilotage à état pur, le talent, presque, il y a ce rapport au meilleur de tous les temps. Et c'est vrai que moi, du coup, pour tous ceux qui regarderont des voitures rouler, à un moment donné, on leur montrera une vidéo d'Ayrton Senna sur un circuit au Japon où c'est vraiment le pilotage à l'état pur. Et tu as un peu ce côté-là, je pense, avec les acteurs. Je ne suis pas grand connaisseur, enfin, je ne suis pas expert du cinéma, mais je me dis qu'avec des grands acteurs très connus, de l'époque, comme Marilyn Monroe, vous en parliez, il doit avoir ce film où tu te dis, c'est ce film que tu dois voir parce que c'était ça, Marilyn Monroe, tu vois. Et du coup, moi, j'ai un peu ce rapport-là, du coup, avec ce jeu. C'est que moi, du coup, ça m'a rappelé, ouais, moi, le rapport que j'ai eu avec certains sportifs, par exemple. Et ça m'a parlé. Après, oui, effectivement, ça, c'est pas particulièrement... original dans le sens où c'est fait depuis des milliers d'années, mais ça marchouillait à minima. Enfin, ça m'a parlé personnellement.
Là où il aurait pu être intéressant, c'est presque pour rebondir avec la partie d'avant, c'est que c'est si ça avait poussé la réflexion encore plus loin, c'est que là quand on parle des icônes, bah on voit ne serait-ce que ce qui se passe avec des Roman Polanski, des Luc Besson. On sait maintenant depuis des années les mecs que c'est, Woody Allen ou quoi. Les trois continuent de faire des films, les trois continuent d'être invités à des cérémonies, à recevoir des prix. Ça aurait été intéressant si le jeu s'attaquait aussi un petit peu à ces figures-là, parce que pour le coup, ce qu'on disait, on a les représentations de faux Hitchcock, de faux Kubrick, machin, dans le jeu, mais elles sont là. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas cette mise en question un petit peu plus ou quoi.
Je peux pas te laisser employer le mot icône et Luc Besson dans la même phrase quand même, faut pas pousser.
Oui, non, mais ça c'est du détail. Mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, en fait... il y avait tellement de possibilités avec ce type de gameplay, avec ce type de propos, avec ce type de jeu, qu'au final, tout reste extrêmement en surface, que ce soit sur cette thématique-là, que ce soit sur les sounds, que ce soit sur le reste. Et c'est dommage parce que il y avait tellement de possibilités que le côté surface, en fait, de l'ensemble du truc m'a fait dire, moi, à la fin... alors, c'est une réflexion personnelle, mais honnêtement, elle est basée sur pas mal de choses, qui est, ok, mais tout ça pour ça, c'est sympa, mais... ok, mais quoi, en fait ? Parce que ce type de...
À la fin, on tombe sur une histoire de jalousie.
À la fin, on tombe sur une histoire de jalousie ultra cliché où c'est encore la femme qui tape une crise, qui se fait brûler, merci l'iconographie de la sorcière, hein, au passage, qui se retrouve avec de la création en mode « Oui, si tu crées, tu finis mortel, quels que soient tes péchés, quelles que soient les horreurs que t'as pu faire, commettre, etc. » Parce que derrière, le propos, il est aussi « T'as fait des films, t'es célèbre, vive Polanski, vive machin, vive truc, parce que de toute façon, ils ont fait des films, ils sont célèbres. Il faut séparer l'artiste de l'œuvre, n'est-ce pas ? Au sécateur, je précise. mais, enfin, ok, mais tout ça pour ça, mais enfoncer des portes ouvertes, c'est cool, mais à un moment, il manque pas mal de choses, en fait. Et le jeu avait tellement de potentiel, c'est ça qui est frustrant, en fait. C'est qu'il y a un tel potentiel dans le jeu qu'au final, bah, tout ça pour ça.
Ce qui est dommage... c'est qu'il apporte une entre guillemets une complexité mécanique avec ce côté retour en arrière et un peu cette surcouche surnaturelle. Moi, j'aurais préféré que à la place de cette surcouche un peu surnaturelle, je sais pas comment ça aurait pu se matérialiser exactement, mais comme vous le dites, les thématiques aient été abordées avec plus de profondeur, avec plus de critique aussi, parce que c'est bien de montrer les choses, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de discours critique derrière, et s'il n'y a rien, ça sert à rien, en fait. Enfin, pour moi, ça sert à rien de juste montrer. Donc ouais. Et du coup, Brian.
Alors qu'il y a mille façons. Il y a mille façons de faire autrement. Enfin, il suffit déjà que tu partes du principe que tes entités, elles sont asexuées, agenrées et compagnie, et que c'est l'art, que c'est l'incarnation de l'art. Et à partir de là, tu peux partir sur plein d'autres trucs. Pourquoi l'incarnation de l'art arrive entre deux. Je vais pas finir cette phrase. Entre deux écrans, pardon, quand tu scrolles ou quoi, enfin, il y a plein de possibilités. Il y avait avec le même matériel en changeant quelques éléments de scénario et en modifiant quelques scènes, quoi.
Il y a ça, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec Bénédicte. Je sais même pas si je parlerais d'enfoncer des portes ouvertes, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il enfonce rien du tout, en fait. Il prend des thèmes.
C'est pour ça qu'elles étaient ouvertes, les portes. Parce qu'il n'y a rien à enfoncer.
Oui, oui, oui. Ça se tient, mais c'est que. J'ai l'impression qu'il prend des thèmes un peu partout et juste il les balance en mode tiens, ça c'est pas mal, mais il en fait rien, jamais. Le jeu veut parler de Marissa Marcel, mais au final, en fait, il parle pas de Marissa Marcel parce que grosso modo, on peut dire que ouais, tu suis plutôt The One à travers Marissa Marcel. Marissa Marcel n'existe pas, en fait, elle n'est rien. Elle est juste une, je sais pas, un hôte. Et même si l'idée, par exemple, de nous montrer les travers du cinéma, les petites remarques sexistes d'un acteur, par exemple le mec qui joue Ambrosio, qui a une parfaite ordure dès que la caméra arrête de tourner, à quel moment est-ce qu'elle parle, Marissa Marcel ? Je sais pas, ça aurait été intéressant de faire parler son personnage, de nous montrer son mal-être, sa place dans l'industrie, mais au final, tout du long, elle n'est jamais qu'une icône désincarnée, en fait.
Et surtout que c'est une idée qui me vient comme ça, mais à l'époque, après, c'est un film qui, ça retrace l'histoire du cinéma, du coup, il y a des séquences avec des vieux films, mais par exemple, avec un film plus récent, en rapport à tout ce que je disais sur les réseaux sociaux tout à l'heure, on aurait pu imaginer des films en plus qu'elle filmait avec son téléphone où elle parlait, alors du coup, ça aurait impliqué de
décaler
un peu la temporalité des films, ouais, avec l'effet vlog, exactement, qui aurait pu permettre d'apporter aussi sa vision et de prendre du coup le point de vue, comme le disait Bénédicte à un moment, de la femme, plutôt que de prendre que le point de vue
de l'homme qui regarde la femme, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bah, pour ça, et sans vouloir en être méchante, mais il aurait peut-être fallu avoir plus de femmes aussi dans le dev du jeu, quoi.
Bien sûr. Après, ça, c'est un éternel problème dans beaucoup d'industries, on va dire.
Non, mais ça, ok, mais dans ce cas-là, tu prends pas ce propos-là si t'as aucune personne concernée qui peut t'aider, en fait, à un moment donné. C'est ça, le truc. Parce que j'entends, hein, le problème, machin et tout. Encore que c'est un faux problème, mais ça, c'est autre chose. Mais...
Je reprocherais pas à quelqu'un de vouloir essayer, mais c'est vrai que du coup, t'as raison. C'est compliqué de parler d'une thématique si tu n'es pas concerné d'une manière ou d'une autre, en fait.
Ah, bon, après, on estime qu'il n'y a pas eu de femmes sur le projet, mais ça se trouve que c'est juste qu'il y avait des femmes et qu'elles étaient mauvaises, hein, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas avoir des sujets, ça arrive aussi.
Ou qu'on les a pas écoutées.
Oui, oui, mais ça... Mais attends.
Mais disons que ça se sent quand même un peu qu'il y a quelques absentes de ce point de vue.
C'est frustrant à voir parce que dans le jeu, t'as... En fait, c'est ça, ce qu'on disait, c'est que les mécaniques sont là. Je pense que vraiment, toute la surcouche surréaliste, ouais, tu vois, c'est le... Vu le... comment c'est mis au début, c'est le meilleur build-up de ok, c'est Marie Saint-Marcel, truc, surcouche surréaliste pour mettre un message. Et t'attends qu'il vienne, en fait, le message. C'est que tu vois, la... de temps en temps, t'as quand même le côté où t'as The One qui reprend le pouvoir du truc par-dessus, qui étrangle un peu le réalisateur. Tu dis, ok,
oui.
Va plus loin. Mais ça, ouais, va plus loin, c'est, on tombe sur l'histoire de jalousie à la fin. C'est dommage, mais je pense que Brian, c'est toi qui... Je pense qu'au final, je me suis retrouvé dans cette situation-là de, c'est Marissa Marcel, on s'intéresse plus à elle à la fin. Je sais que moi, j'ai eu des séquences, pour le coup, je ne voulais pas cliquer sur elle, justement, pour voir ce qui se passait autour, pour voir des séquences, ce qui se passait autour, pour pas forcément avoir Marissa Marcel dedans. Parce que je pense que t'as pointé le truc dessus, c'est autant l'actrice est vraiment bonne, tu vois, dans ce qu'elle fait, pour le coup, ça, elle incarne, au final, plein de personnages différents avec la même actrice.
Elle est magnétique. Hein.
Mais par contre, ce que le jeu en fait est pas forcément intéressant. Pour le coup, Marissa Marcel, en soi, pour le coup, c'est que ça devient... Ouais, le vaisseau de tout ce truc-là, alors qu'elle aurait dû péter l'écran tout le temps, c'est elle qui aurait dû délivrer bah ça. L'idée du vlog,
c'est qu'on connaît pas. Fun, quoi. On connaît pas ses doutes, on connaît pas ses aspirations. Parce qu'elle est actrice, moi, je suppose que oui, elle a des envies de devenir une star, mais...
Mais t'as aucune confirmation, de toute façon.
Mais oui.
Non, bah parce qu'elle a la surcouche de The One qui vient derrière, quoi. C'est parce que c'est un vampire et parce qu'elle est jalouse de machin.
C'est une surcouche masculine qui arrive derrière en plus. Hein. Parce que c'est The One, c'est pas The Other One. Hein.
C'est vrai.
Mais truc tout con, en fait, il n'y a même pas besoin d'inventer des personnages de vampires. Parce que moi, déjà, moi, ça m'a saoulé parce que j'étais parti sur une idée de la femme, c'est une muse et l'autre représente le côté destructeur de l'art. Que l'art. Non, mais voilà, j'étais parti sur ça.
Non, mais oui, oui, non, mais oui.
Et après, il y aurait pu avoir une. Un discours assez intéressant entre l'art et la destruction. Voilà. Mais sans parler de ça, il n'y a même pas besoin de ça. C'est juste que si on part du principe que l'acteur se met à nu devant une caméra pour jouer, et ben juste tu faisais des séquences alternatives avec Marissa Marcel quand tu tournais en arrière, tu voyais juste l'actrice qui t'exprimait sur ce qui se passait actuellement, simplement.
Ouais. Je vous fais une oui. courte aparté. J'ai regardé en accéléré les crédits. À l'écriture, donc on a Sam Barlow
et 4 hommes, je crois.
Voilà, exactement. Donc je peux vous confirmer, seule femme au script, et en plus, la seule femme au. Pardon, j'arrive plus à parler. La seule femme au script intervient sur Two of Everything, sur l'écriture de ce film-là. Et donc je pense que le global est, je pense, écrit par Sam Barlow, du coup. Je pense que c'est lui qui fait le lien entre les films, vu qu'il y a l'écriture des 3 films. Donc forcément, le discours global, c'est plus compliqué à minima, on va dire.
Bon, j'étais pas si loin de tout à l'heure. Mais ce que disait Julien, c'est aussi intéressant, le côté à chaque fois que Marissa est à l'écran et qu'il se passe un truc et qu'il y a la surcouche de The One qui arrive, elle se fait quand même mansplain toutes ses émotions. Hein.
C'est vraiment ça.
Dans tout le jeu, elle se fait mansplain ses émotions, ses ressentis, ce qu'elle fait, ce qu'elle joue, etc. Hein.
Ouais, non, c'est vrai. Même dans tout, même dans les simples lectures de script, tout du long, c'est comme ça.
Et il n'y a personne, que ce soit du côté des acteurs, du jeu, etc., ou même du côté de la réalisation du jeu, qui vient mettre une nuance ou une critique ou quelque chose à ce mansplain de 6 heures de jeu, quoi.
Bah, disons que ça.
Là, au mieux, peut-être ça vient sous la forme de la vengeance, un petit peu, ce côté jalousie qui revient, mais c'est.
Est-ce que la jalousie, elle est envers l'homme? Elle est pas. Enfin, c'est une jalousie primaire, entre guillemets. Ouais, c'est pas une jalousie de putain, je suis bonne, j'en ai marre que ce soit des mecs qui prennent mon rôle ou qui m'expliquent la vie. C'est vraiment une jalousie primaire, donc c'est même pas en fait.
Le seul contre-pouvoir, ça va être ça, mais.
Mais c'est ça pas importe, un contre-pouvoir. En réalité, c'est pas un contre-pouvoir, c'est l'inverse, puisque c'est un outil d'oppression, en fait. Tout ce qui est crise de jalousie, d'hystérie, etc., à outrance, mise en scène par des hommes pour des personnages féminins, c'est un outil d'oppression, en fait.
C'est ça. Je pense que ça résume presque un petit peu ce qu'on a sur le jeu, ce qu'on disait avec les thèmes et même ce qu'il avait. C'est que c'est un jeu, je pense, qui nous a tous marqués. Vous l'avez compris, de manière, il nous a marqués. Il y a des choses à raconter dessus parce qu'il est loin d'être inintéressant, mais c'est qu'il met un gameplay intéressant en place. Pour le coup, en tout cas, pour du FMV, c'est un des meilleurs FMV. Genre, au niveau d'acting, c'est bien. Les actrices, enfin, Manon Gage est très bonne, tous les autres acteurs sont bons dans leur truc. Donc on est sur un bon jeu là-dessus, ils sont bien dirigés. C'est colossal en termes de travail. Tu sens qu'il va aborder... Après, ce truc, c'est ça, en fait. Tu sens que sur les thèmes qu'il va aborder, les thèmes sont bons. Tu vois, dans, les... dans l'intention, en tout cas, les thèmes sont bons. Dans l'exécution, ça, ouais, ça tape dans l'eau, quoi. J'ai bien même encore non. Sur la création, ça tape dans l'eau dans le sens où ça aurait pu aller plus loin, sur ce qu'on disait avec le coup des icônes un petit peu. Sur la place de la femme, c'est que ça tape même plus dans l'eau, quoi. Ça se tire dans le pied. Le coup, plus qu'autre chose.
Mais ce qui est dommage, ouais. parce que comme on l'a dit, il y avait des bases sur certains trucs, et c'est dommage que finalement, ils en aient fait ça. On va dire, c'est un peu dommage de commencer, on va dire, à mettre en place des séquences où tu vois les abus dans les films, notamment dans les trois films au final, pour qu'au final le discours derrière soit raté. Donc ouais, effectivement.
Mais c'est pour ça, avoir des intentions, ça suffit pas toujours, malheureusement.
Il y a de ça.
Ou avoir un gameplay, ça suffit pas non plus.
Mais c'est ce qui est amusant, c'est qu'au final, finalement. Alors que c'est un FMV, le truc le plus réussi dans le jeu, c'est son gameplay.
C'est oui, c'est vrai que c'est un joli paradoxe pour le coup.
Oh, c'est bien réalisé, quoi. J'ai bien réalisé.
Oui, oui, bah, peut-être. Mais moi, c'est pour le coup, ce qui me marquera sur ce jeu, au-delà des thématiques maltraitées, on va dire, c'est quand même le gameplay, tu vois. Enfin, ce qu'il a proposé, parce que pour le coup, c'était vraiment original. Même si c'est pas du jeu vidéo, on va dire, comme je l'aime le plus, c'était intéressant sur le principe, on va dire. Il y a des choses à explorer, en fait. Tu te dis que là, il y a une voie, il y a encore des choses à faire dans ce genre-là, parce que finalement, c'est un genre assez neuf qui est... Enfin, je sais pas s'il est si neuf que ça, mais en tout cas, il n'est plus trop exploité aujourd'hui. On voit très peu de jeux comme ça. En tout cas,
c'est
moi,
très, très niche, hein, le FMV, c'est très, très niche.
Je me dis, il y aurait des choses très intéressantes à explorer là-dedans en termes de mécanique. Il y a moyen de faire des choses très très intelligentes, enfin très très subtiles, on va dire, d'un point de vue de mécanique.
Je pense qu'on va doucement glisser vers la conclusion de ce podcast. La meilleure conclusion, je pense, à tout ça, de toute façon, ça sera pour vous qui nous écoutez, essayez le jeu pour vous faire un avis si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a trop de choses, voilà, il y a trop de thèmes même pour vous faire votre propre opinion. Ne serait-ce que sur la narration, c'est un jeu qui vaut le coup d'être essayé, justement pour vivre son expérience, pour la comparer avec celle des autres, pour pouvoir vivre un petit peu tout ça. On peut ne pas être sensible à la mécanique, c'est normal hein, pour le coup. Mais c'est... à la minima, c'est un jeu dont on voulait parler, puis il y avait des thèmes assez intéressants à raconter dessus. Donc on va conclure doucement. On vous remercie si vous nous avez écoutés jusqu'ici. N'oubliez pas, comme on disait au début, si vous pouvez nous mettre des petites étoiles sur les applications, ça va nous aider. On va bientôt se retrouver pour des nouvelles interviews, des nouveaux épisodes. Et puis on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous nous écoutez. À bientôt tout le monde.
À bientôt, merci.
Ciao tout le monde.
À bientôt.
Salut.